T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi!
Yippie-kaye, pauvre con.
Nous, les nains, nous sommes des sprinteurs.
Les princes de la cuite.
En garde, espèce de vieille pute dégarnie!
Enculé de ta race!
On a fait comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts.
Alors, bonne chance, Jean Jérôme!
Oh! Le slip. Le slip. Hello!
Salut!
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le slip. Un slip tout beau, tout frais en ce début d'année. Année qu'on vous souhaite meilleure que la dernière, c'est déjà pas mal. Hein, que vous en pensez?
Oui, je suis d'accord.
Ouais, ouais.
Voilà. Voilà. Même si c'est mal barré pour le moment. Quoi.
Je commence à en avoir marre de cette phrase, j'ai l'impression que c'est comme si tu disais il n'y a plus de saison, ma bonne dame.
C'est trop ça. Ouais, mais tu te vois souhaiter une bonne année, toi, ça n'a pas marché l'année dernière.
Une bonne santé.
Une bonne santé, surtout.
Ma bonne dame.
Bien, autour de cette table virtuelle, encore une fois, nous enregistrons à distance, le nec plus ultra du chroniqueur, en tout cas le nec plus ultra du chroniqueur disponible sur Nantes. Juste en face de moi, l'œil vif, heureux sûrement ce soir de ne pas recevoir toute la troupe de facochères. Il me confiait l'autre jour qu'il était content deux fois quand il nous voyait débarquer chez lui, quand on arrivait et surtout quand on partait. C'est Mollusque, comment vas-tu Mollusque?
Tu as très bien résumé la situation, et encore il y a toujours Angelo qui vient squatter chez moi pour jouer, sans prévenir, il vient kicker quoi.
Ça fait du PEC, ça fait du PQ gratuit les gars, on va pas dire.
Ouais. il bouffe ma blanquette, il souille mon PQ.
Bon, un pélétron dans les chiottes en plus. Tant qu'il fait pas l'inverse, hein. Tant qu'il bouffe pas ton PQ.
En même temps, je suis une blanquette, c'est méga écologique. Hein. On est méga 21e siècle.
Rappelez-vous, on risque d'être reconfiné bientôt. Le PQ, c'est une denrée rare.
Ça,
bien. Il nous a concocté sa meilleure cuisine ce soir, comme à son habitude. En tout cas, j'en suis convaincu. C'est homme aux passions multiples, fan de Patrice Lafont et de Tectonique. C'est Charlie. Comment vas-tu, Charlie?
Ça va nickel. Moi, je suis bien content. Je me suis acheté des nouveaux boxers, ça me fait un méga boboule.
Oh,
il y a okay, des dessins que tu peux nous montrer. Je vous enverrai une photo, les gars. Je vous
bon, allez, fais pas t'amuser.
Je vais vous montrer maintenant. Allez,
vas-y, maintenant. Danse sur du Patrice Lafont, d'ailleurs, en slip.
Sur la chanson de Pyramide.
Allez. Ce serait parfait.
Et vous venez de l'entendre, messieurs, dames. Il a le poil soyeux, le regard vif et intelligent. Il n'est nourri que à la viande crue encore tiède de ses élèves désœuvrés. C'est Angelo, comment vas-tu?
Très bien, très très bien. Je suis méga content du thème de la chronique que je vous ai concoctée ce soir. Méga OP pour ce soir.
Bien, tant mieux. J'en attendais pas moins de toi. Et pour encadrer cette bande de gugus, il fallait un garde-fou, un sage, un érudit, un homme d'expérience. Et malheureusement, bah, nous, on a Pépé. Comment vas-tu, Pépé?
J'ai cru que t'allais dire que c'était toi.
Bien, je vais essayer de vous guider vers la voie de la sagesse. Je vais faire okay. Mieux.
Mais pas vers la lumière, ça c'est pourri comme
ça. Ah, ça non. Non.
Comment bon, il va notre animateur préféré, le Pedro?
Avec sa coupe de redneck et sa moustache, bidon de vélo. Ouais.
Le Pedro va bien. C'est vrai que je vais passer chez le coup-tif parce que je me regardais dans le miroir tout à l'heure.
Il y a un sac à mulet là qui commence à.
Ouais, je ressemble vachement au mec qui a pris le Capitole il y a une semaine là et ça
m'a fait carrément. Tu vois, le dernier podcast, tu ressemblais à un des sept nains dans Blanche-Neige, mais là tu ressembles carrément à un mec qui a un drapeau de la Confédération.
Bon, bah voilà, si c'était pas encore décidé, c'est sûr maintenant, je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. Tellement content de vous retrouver, vous m'aviez manqué.
Ah, ça.
Et donc ce soir, si on se retrouve tous ensemble pour se vanner, c'est également pour parler de nos amis les monstres. Et comme vous êtes un petit peu plus qualifié que moi pour parler de nos amis les monstres, messieurs, je vais vous laisser le soin de vous occuper du thème. Et moi, je ferai une petite pastille fraîcheur en fin de partie.
Ah, j'ai aller aux chiottes.
Non, pas tout de suite.
5 minutes, il a parlé deux fois de chiottes, quoi, le mec.
Ouais, bah voilà. Avant de commencer, je vais laisser la place à Mollusque qui va nous en parler un petit peu plus.
Oui, je vais vous lire mon introduction. Alors, pas une mince affaire que la rédaction de cette introduction dédiée aux monstres, tant il y en a de définitions. Pour m'aider dans la tâche, quoi de mieux que d'invoquer le dragon blanc aux yeux bleus ?
Yu-Gi-Oh !
Ah non, pardon, Wikipédia. Étymologiquement, le monstre est ce que l'on montre du doigt, et aussi ce qui se montre, provoquant soit la terreur, soit l'admiration. Raté, c'est pas tout à fait de ça que nous voulons parler. Fuck off Wikipédia. En fait, dans cet épisode, nous allons plutôt nous atteler à déconstruire la figure du monstre la plus communément admise. Une créature à l'apparence anormale et effrayante, celui de la mythologie ou des craintes de notre petite enfance. Le monstre est partout, tantôt visqueux, tantôt poilu. Il hante nos cauchemars et les films d'horreur. Pourtant, il en existe des représentations plus douces et avenantes, comme par exemple Casimir, le monstre gentil de l'île aux enfants, Casper, le non moins gentil fantôme, pour le plaisir de le caler là, le loup-garou du campus, Angel, le vampire maniaco-dépressif, fan d'autoflagellation, mais qui redevient méchant quand il lâche la purée, ou encore les célèbres Pokémon. Preuve s'il en est que, malgré leur parfois hideuse apparence, leur œil vitreux, leur nez crochu et leurs pieds de cochon, ils peuvent nous manifester de l'affection. Et si finalement le monstre sous le lit ne nous voulait pas de mal? Et si, en sortant du placard, il se révélait en fait être notre ami?
Ce sourcil soulevé, quoi.
Ouais, c'est clair.
Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Je vous le disais en préambule, je vais vous faire confiance et je vais beaucoup vous écouter parce que c'est vrai que moi, je suis très peu monstre de l'enfance. Ouais, je crois que j'étais un peu flippé, petit, ouais. Ouais, peut-être. Peut-être.
Tu regardais Casimir avant de te coucher.
C'est peut-être Alf qui t'a fait peur, peut-être.
Alors, par contre, j'étais très fan de Alf, par contre.
On avait parlé d'E.T. la dernière fois qui te faisait flipper.
Ah ouais, non, E.T. par contre. Bah oui, attends, avec ses grands doigts, là.
Ouais, il est quand même
pas chiant. Ah, avec ses grands doigts, il me faisait fantasmer.
Attends, Pépé, il devait être dégoûté, quoi. Regardez les doigts qu'il a et moi, mon nez. On est la team parfaite.
Voilà. Très limite, c'est là.
Ouais, ça faisait même pas 10 minutes.
Bah, ça va, il a parlé du nez parce que je croyais qu'il était parti sur autre chose. Moi, j'avoue.
Oui, j'attendais un truc.
Il a pas senti
le loup.
Ok.
Pas du tout.
Et j'avoue que moi, les amis, les monstres, bah, il y a tout, quoi. Il y a les Pokémon, Yu-Gi-Oh! Aussi, vite fait. Ouais. Bah, franchement, Casimir, même si j'ai pas regardé spécialement, mais bon, t'as tout. Casimir, ça te fait. T'as le Muppet Show aussi. C'est les amis, les monstres. T'as plein de choses.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, il y a des trucs.
T'as plein de choses, en fait.
Muppet Show, c'était plutôt des animaux.
Ouais, parce que moi j'irais plutôt Sesame Street. Là pour le coup, c'était plus des monstres.
Ou les Teletubbies.
Ça, c'est pas des amis, c'est des Teletubbies. C'était surtout des mecs qui avaient pris beaucoup trop d'acide, non?
Ouais, sûrement, ouais.
Ils veulent pas tomber, ils veulent avaler ton cerveau.
Je peux dire qu'à la fin de l'épisode, Tiki Winky prenait cher.
Ah mais en vrai, est-ce que vous avez déjà regardé en entier l'épisode de Teletubbies?
Oui, j'ai
tenté l'expérience.
J'ai dû en voir en entier,
c'est
mais
pire que ce que je croyais.
Ah non, mais c'est nul, là. C'est nul.
Incroyablement psychédélique. C'est...
Ouais. Mais il me semble que, parce que je déconnais tout de suite avec les acides, mais il me semble qu'il y a un mec qui a fait un espèce de remix sur YouTube où ils ont les yeux complètement éclatés.
c'est les Cassos, non?
C'est les Cassos. Ouais, c'est les Cassos.
On est complètement hors sujet là.
c'est vrai.
On parle des Teletubbies, on est dedans.
Encore 2 minutes et on sera sur Pornhub, les gars. On continue.
Bon, je suis sûr que tu peux trouver des monstres aussi sur Pornhub. Hein.
Bon, c'est simple, tu tapes naine chinoise et là, t'es déjà dans deux amis les monstres.
Ok, je tape.
Mais de toute façon, déjà. En plus, ton truc Pornhub.
Toi, raciste.
Le hashtag.
Tu vas te mettre
en alien.
Oh putain.
Le hashtag alien, c'était le numéro 1 l'année dernière, hein, quand même, sur Pornhub.
Sérieux, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe?
C'est un truc chelou, j'en sais rien, j'ai pas regardé, je te dis juste que c'était ça.
Du coup, j'ai envie d'aller voir.
Pure curiosité intellectuelle, j'ai envie de pousser l'expérience.
Allez,
on verra ça.
Cher Digger, directement sur
Pornhub. Par pure curiosité intellectuelle, je vais m'isoler et aller regarder ça dans un coin avec le sopalin.
Voilà, j'allais dire la même chose.
Je suis pas sûr que t'auras vraiment besoin de sopalin.
Intérêt scientifique, je vais prendre du sopalin aussi.
Bon, bah, vu qu'on a bien déjà digressé et qu'on n'a pas du tout parlé de nos amis les monstres, je propose à Charlie de prendre le relais et de nous questionner.
Let's go for the quiz.
Yep.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
C'est votre ultime bafouille.
Alors, pour ce quiz, vu qu'on est sur les amis les monstres, on va faire un combat de Pokémon.
Oui.
Oh, je suis déjà dans la merde.
Ah, non, t'inquiète. T'inquiète, pas de problème. Donc, nous aurons le dresseur Pépé et son Pokémon Mollusque.
Mollusque. Mollusque.
Non, tu peux nous faire un petit Momo Mollusque, quoi. T'as le droit.
Momo Mollusque.
C'est quel type de Pokémon, du coup
ça? Oh, il fait ce qu'il veut après.
C'est un Pokémon plante.
C'est un apport Nawak. Et Angelo avec son Pokémon Pedro Miguel Pascal de la Yola. Vamos a la playa, señor. C'est qu'il a fiesta. Ou qu'on appelle Pedro pour aller plus vite.
Tout ça parce qu'il a une coupe de mulet, c'est abusé les gars.
Alors du coup, en fait, vous avez de la chance, vos Pokémon sont assez intelligents pour vous aider à répondre aux questions quand même les gars. Et en fait, on va commencer par une petite question pour savoir quel duo va commencer vraiment après.
Okay.
Et en fait, on va parler Digimon, et on va
sera
le plus près, c'est me donner en quelle année a commencé la diffusion de la série TV Digimon.
En France ou
c'est vraiment, j'ai trouvé que là, ces trucs-là, donc ça a dû commencer à plusieurs endroits au même moment, quoi. Donc,
il faut dire son nom. Il faut dire son nom pour.
Bah non, mais c'est. Bah, on va commencer par Angelo et Pedro. Ouais, allez-y, donnez-moi une année.
Alors Digimon, c'était 97, mais en France, tu peux peut-être décaler de 2 ans. J'irai 99.
Je te suis, mais j'aurais dit exactement ça.
Ben bah, moi j'aurais
dit 99 au pire.
Répondre là ou...
Ouais, Mollusque et Pépé, vous dites.
Au départ, avant qu'il parle, je voulais dire 97 pour l'année de diffusion, mais il vient de nous donner l'année de sortie au Japon, j'imagine. Bon, on dit 2000.
C'est foiré, ou peut-être que c'est...
Bah, on rajoute un an, on dit 2000, et puis voilà. Ouais, ça arrive pas
ouais,
aussi.
Ouais, c'est vrai que 97, ça me paraît super tôt. De 2000, allez.
Et bah, de toute façon, il a donné la bonne réponse avec 99, donc...
Allez le pouvoir.
Alors du coup, j'ai 8 questions. J'ai 2 questions à 1 point d'attaque, 2 questions à 2 points d'attaque, 2 questions à 3 points d'attaque et 2 questions à 4 points d'attaque.
Je sens que je vais aimer ce quiz.
Plus il y a de points, plus la question est dure.
Yes.
Et il y en a 2 à chaque fois, donc vous choisissez avant de commencer qu'est-ce que vous voulez comme type de question. Et c'est celui qui aura mis plus de points dans la gueule de l'autre qui aura gagné.
Ok.
Tout simplement. Donc Angelo et Pedro, c'est à vous de commencer.
Très bien.
Qu'est-ce que vous voulez comme type de question? 1 point, 2 points, 3 points, 4 points?
On commence tranquillou?
Ouais, ouais.
Du 2 points ou 3 points, mais pas du 4.
Je suis d'accord, 2 points.
Allez, 2 points.
Ouais. Alors, vous tentez une attaque vive attaque.
Ok.
Comment s'appelle le personnage amoureux de Kermit dans le Muppet Show de 1976?
Ah, c'est Peggy. C'est Peggy.
Peggy la cochonne?
Ah, Peggy.
Ouais, c'est ça. Si, vous mettez 2 points.
C'est 2 points, ça.
Allez
non, c'est 0,5, ça.
2 points pour les cochons. Pépé Mollusque.
Alors, on attaque direct à 4, là.
Oh non, on prend 3.
Allez, 3, ouais. 3.
4, on va se faire enculer. Hein.
Ok. Donc là, vous tentez une attaque éclair. Alors, en plus, pour ce point info, j'ai fait 4 questions sur les thèmes qu'on a après. Donc là, en plus, de la chance, c'est Monstres et Compagnie. Comment s'appelle la ville de Sully et Bob de Monstres et Compagnie?
Monstropolis.
Bah ouais, pour le coup, c'est facile, c'est lui qui va nous le présenter après. Donc... Bien joué. L'attaque éclair a réussi. Vous avez 3 points. Enfin, vous mettez 3 points dans la gueule de l'autre.
Mais nous, on est des Pokémon Roche.
Qu'est-ce que vous choisissez, Angelo et Pedro?
Faut se refaire, non?
Comment?
Faut se refaire, non?
Okay. Moi, je reprendrai une attaque à 2.
On peut monter à 3, là. C'est une question facile qu'ils ont eu à 3, là.
Ouais, mais moi, tu vois, Monstres et Compagnie, je suis une merde. On l'aurait eu. J'aurais... Bah, vas-y, 3, vas-y, on y va.
Vous allez pour le 3. Donc, après, il y aura une question à 3.
Ouais.
On y va?
Ouais.
Vous tentez l'attaque psycho.
Oh, oui.
D'après les animaux fantastiques de J.K. Rowling, sorry. Qu'est-ce qu'un nifleur?
Un nifleur?
Oh putain. Nifleur.
C'est pas les bestioles qui peuvent sentir ton. Ah non, 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 non. Les trucs qui peuvent sentir ton âme, là, à moitié. Non, le truc qui t'embrouille les pensées, tout ça.
Non, le nifleur, c'est pas
on
le.
Est dans les animaux fantastiques, pour le coup.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est pas le. En fait, c'est tout simplement le truc qui te. Tu sais, qui peut poursuivre à partir de l'odeur. C'est l'espèce de. Tu sais, tu donnes un truc à sentir et le machin piste. Non?
Vous partez là-dessus? Non, mais après, il faut me dire la réponse, en fait, parce que là, vous discutez.
Oui.
Vous suivez ça?
Ouais.
Non, non. Mollusque, tu savais? Tu levais de l'odeur.
C'est pas un truc qui peut tracer la magie, justement?
Pas du tout, c'est la petite bestiole noire qui va voler un peu tout ce qui brille, qui est attirée par tout ce qui brille et qui récupère toutes les monnaies, tout ce que tu veux. Qui les met dans sa petite poche.
Quoi. Du
coup, l'attaque psycho n'a pas fonctionné, les gars.
A échoué. Dommage.
Échoué. Ouais.
Du coup, il reste plus de questions à 3 points, les gars, mais comme vous voulez, après 1, 2 ou 4 points pour Mollusque et Pépé.
Est-ce qu'on on essaye de les larguer et de partir devant avec un 4 points, là?
Ouais, allez, on va essayer 4.
Allez, allez.
On verra.
Ok. Bah, c'est Undertale, mais c'est pas une facile, donc je suis pas sûr que même Mollusque l'aura. On verra. C'est une attaque Dracorage. Sous quel moteur a été développé le jeu Undertale?
Ah, c'est... merde.
C'est quand tu lances le jeu, tu vas...
C'est Game Maker, non?
Dolly 4, ça se soupape, je crois.
je crois que c'est Game Maker, mais je suis pas sûr.
Avec un moteur Blue HD.
Je l'ai lancé qu'une fois, je me souviens plus.
En gros, c'est un moteur de jeu ultra assisté, mais je sais plus si c'est Construct ou Game Maker. Je veux dire Game Maker.
Tu es parti sur Game Maker, du coup?
Ouais.
Ouais, du coup, ouais.
Et c'est la bonne réponse.
Oh, oh merde, merde. Oh, ça sent la merde, ça, Pedro.
Ouh là 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 là.
Aïe, aïe, ça fait mal. Hein.
Il reste des questions à 1, 2 et 4 points, les gars. Donc,
bah 4, on y va, allez, c'est parti.
C'est une question Pokémon.
Ok.
C'est une attaque ultra laser en plus. Donc c'est quand même
ah putain, ma préférée.
À quel type de Pokémon correspondent les cartes or?
Oh putain, ça c'est les cartes Pokémon. Ah, à quel type de Pokémon?
Ouais.
Bah je dirais type dragon, moi.
Partez là-dessus. Bah, de toute façon, Pedro, j'ai l'impression qu'il est dans le flou, là.
Ah ouais, c'est évident.
C'est la bonne réponse, les gars.
Allez
bien sûr. Bien joué.
Ah, allez, Pedro. Allez, pas à distance.
On a un point d'avance, là, ça.
Ouais, exactement, ouais.
Il reste
des questions à un point et à deux points. Il en reste qu'une seule.
Bah, on va prendre la deux points.
Bah oui.
Ok. Comment s'appelle l'animal mythologique ailé monté par Persée pour sauver Andromède?
Oh non.
Pégase.
Ouais.
Eh ouais, Pégase. Ça. Simplement. Ah, bâtard! Il reste plus que des questions à un point, donc vous n'avez pas le choix. C'est une attaque flash, une attaque de merde. Ouais. Définissez le premier couplet de la chanson de Casimir de L'île aux Enfants. Voici venu le temps des rires et des chants.
Non, mais chante-le!
Dans L'île aux Enfants. Non, non, mais non, non. C'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux. Non,
mais là, j'ai envie de pleurer, là, par contre.
Le pays joyeux des enfants heureux.
C'est à eux, là, on est d'accord, c'est à eux.
Non, c'est à nous.
Ah, c'est à nous!
Ouais.
Mais je veux pas cette question, là.
Puis joyeux des enfants heureux,
des non, monstres gentils,
c'est un paradis. C'est ça.
Ouais, c'est ça, les gars.
Allez.
C'était laborieux, mais bon.
C'était compliqué, point, quand même. Et dernière question, l'attaque, la meilleure attaque du monde, l'attaque trempette.
Donc, il devrait perdre avec ça, truc.
Quel animal de compagnie virtuelle japonais a été créé par la société Bandai en 96?
Le Tamagotchi. Yes.
Ouais, ouais. De toute façon, les une, normalement, c'était facile. Hein.
Bien joué, ça.
Et voilà, ça fait... Vous avez mis 10 points d'attaque Mollusque et Pépé dans la gueule de ce petit Pedro. Et les autres n'ont mis que 7 points d'attaque.
Tu peux retourner dans ta capsule, Momo.
Voilà. Bon boulot. T'as plus qu'à aller au Poké-Centre, fils de pute.
La violence, putain.
Et moi, comme Harry Potter, encore.
Oh, bah, voilà, ce petit quiz de combat de Pokémon.
Merci, Jacha.
Merci, Jacha.
Donc, je suis aussi nul à Pokémon en jeu Charlie que sur Game Boy. Très bien, c'est bon à savoir. Bien, maintenant, c'est Pépé, je crois, qui va prendre la parole et tu vas nous parler de...
C'est exact, pas du tout de Pokémon.
Putain.
J'ai hésité sur le long métrage d'animation parce qu'il y en a quelques-uns qui rentraient dans le thème. Il y avait Max et les Maxi-Monstres, mais j'ai lu le livre pour enfants en quelques pages. Bon, voilà, j'avais pas envie de m'attarder. Okay. Un monstre à Paris, film français que j'avais bien apprécié.
C'est sur Le Pen, ça, non?
J'arrête de dire des conneries. C'est ça, si tu veux. Il y avait mon voisin Totoro, mais du coup, les Ghibli, il y aura moyen d'en parler.
Oui.
Donc, moi, je me suis plutôt attardé sur Monstres et compagnie.
Oui.
Donc, et puis parce que voilà, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Hein. J'étais pas enfant non plus, j'étais ado. Mais donc Monstres et Compagnie, Monster Inc. De son nom, titre original, donc réalisé par Pete Docter. Donc c'est quand même Lao, Vice Versa et le dernier Saul. Mais il n'était pas tout seul à la réal. Il était aidé de David Silverman, du coup, qui a fait L'âge de glace, Les Simpsons, le film, Lee Unkrich, qui a fait Toy Story 1, 2, 3, 4 et Le Monde de Nemo. Donc voilà, il n'y avait pas n'importe qui.
Petite pointure quand même.
Et au scénario, il y avait 6 mecs. Voilà, on va pas tous les citer, mais du coup, il y avait beaucoup de monde. Donc, film sorti en 2001 aux États-Unis, en 2002 en France. Donc ça commence à dater. Donc brièvement, je vous fais un petit synopsis, quoi, aussi, pour ceux qui connaîtraient pas quand même. Donc dans un monde peuplé de créatures monstrueuses en tout genre, de couleurs et de tailles variées, avec plus ou moins d'yeux, plus ou moins de membres, la ville de Monstropolis est alimentée en électricité par la grande usine Monster Inc., où travaillent nos héros. Jack Sullivan, en tant que terreur des placards professionnels, élu meilleur employé du mois à de multiples reprises, et Bob Razowski, son assistant, c'est un petit peu le sidekick rigolo. Donc, particularité de cette usine, c'est que la source d'énergie utilisée provient des cris d'enfants. Donc, pour récupérer cette ressource, des milliers de portes pour passer dans le monde des humains, qui sont en fait des portails permettant d'accéder directement aux chambres des enfants, si elles sont dotées d'une porte de placard, donc dans le monde entier. Donc, la légende dit que Pedro Bear aurait tenté plusieurs fois le concours d'entrée chez Monster Inc. et aurait été recalé à chaque fois, malheureusement.
Bon, je t'emmerde.
Bonne opportunité. J'ai pas dit Pedro, j'ai dit Pedro Bear.
Il le prend pour lui. Oh la vache. Il s'est vendu, quoi. Putain.
Oh là là. Appelez la police. Appelez la police.
Retour. Oh putain.
Ça y est, je vois les sirènes au loin. Bon, bah, ça va. Je suis foutu.
Mon petit ped. Donc voilà, suite à un incident, notre héros Sully va faire la connaissance d'une petite fille qui est passée de l'autre côté de la porte, malencontreusement. Passée la terreur face au présumé danger de l'enfant, une grande amitié va naître et une grande aventure va se dérouler pour ramener l'enfant chez elle. Ah oui, parce que les monstres ont peur des enfants. Dès qu'ils rentrent en contact avec les enfants, c'est tout de suite le code alerte 2319. Et du coup, il y a une équipe d'intervention qui arrive pour...
c'est clairement ce qui me fait le plus rire de tout le film.
Ouais, puis du coup, t'as plein de scènes comme ça qui sont assez drôles. Ouais. Il y a juste une chaussette qui est posée sur un monstre et du coup il le rase complètement pour le désinfecter. Donc voilà, il y a une grande aventure autour de ça avec la petite fille. Grande aventure en effet parce qu'il y a un grand complot qui est en marche pour produire davantage d'énergie. L'idée, enlever les enfants et leur extirper des cris avec une machine infernale. Bon, personnellement, je trouve qu'ils se font un peu chier la bite. Moi, par exemple, ma fille, l'autre jour, elle m'a fait une crise parce que j'avais pas marché sur les bandes blanches au passage piéton. Donc, ça aurait pu récolter d'énergie. Ou alors, tu leur retires leur doudou et puis là, tu peux alimenter Las Vegas pendant une bonne année, je pense. Hein. Donc, non, eux, ils ont décidé d'utiliser une machine infernale. Donc, Sully et Bob vont découvrir ce que manigancent les monstrueux monstres méchants, dont je tairai le nom, pour ne pas spoiler. Mais avant de pouvoir les bruter, ils vont être mis au placard. Et oui, pour de vrai, ils vont vraiment dans un placard.
Ils vont vraiment.
Ils téléportent.
Le Lilol.
Je crois qu'il attendait des rires là.
Ah d'accord, non, je me dis que.
Elle est belle, putain.
Merde, j'ai pas entendu la bonne blague.
Ah non, mais c'est on rigolait ton truc en retard.
Ah d'accord, ok.
C'est toi la blague.
Merci. Au montage, on pourra recaler les rires.
Oh, non, on décalera ça. On décalera le rire de 5 minutes.
Que dalle. Il n'y a plus de montage d'ailleurs.
On mettra des rires de sitcom, t'inquiète.
Bref, du coup, j'ai assez perdu de temps. Donc, il va y avoir des grandes aventures. Je vais pas tout raconter, mais en gros, voilà, juste avec ce petit speech, il peut se passer plein de choses et ils vont rencontrer d'autres créatures. Donc, pendant le film, on va avoir des références à d'autres monstres célèbres. Donc, l'abominable homme des neiges, Bigfoot, Nessie, Eric Zemmour,
les Illuminati.
Les Illuminati. Fan.
Très très bonne fan. Elle était bonne celle-là.
Et donc voilà, plein de belles aventures. Donc avant de vous donner mon avis, qui vous en douterez plutôt positif, parlons vite fait de la forme. Parce qu'on est quand même, on est que au quatrième film de Pixar, donc 2002, voilà, ça date un peu. Et malgré ça, là, je l'ai revu le film il y a pas longtemps, et je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli. Malgré quelques petites textures un peu dégueu, j'ai comparé sur la suite qu'ils ont fait en 2013. J'ai fait en 2013, c'est super propre, c'est nickel. Là, c'est pas toujours bien propre, mais pour l'époque, c'était quand même assez impressionnant. Il y avait quand même quelques prouesses techniques, des effets de lumière que tu retrouvais pas dans les autres films de l'époque.
Les fourrures.
Et j'allais y venir. Juste avant, vite fait, il y a des séquences dans la neige qui sont assez incroyables pour l'époque. Et surtout, l'événement, c'était la fourrure, les poils de la créature principale qui était assez incroyable pour l'époque. Donc voilà, c'est un film qui a longtemps figuré parmi mes préférés de Pixar, parce qu'on ne s'ennuie pas une seconde. C'est drôle, pour les enfants comme pour les adultes. Beaucoup de gags visuels et des dialogues poilants. Au passage, la VF est excellente. Je l'avais vu en VO à l'époque, là je me le suis rematé en VF et franchement, il n'y a rien à redire. De l'action très rythmée avec une mise en scène au poil. Particulièrement la scène de poursuite à travers les portes, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, ou c'est une scène qui est assez mythique, c'est super bien rythmé, c'est plein de bonnes idées, donc voilà, c'est génial. Et puis de l'émotion aussi, sans être trop triste, sans tomber dans le mélodrame, comme on a pu voir dans beaucoup de Disney, où il y a toujours un parent qui meurt, il y a les morts, c'est triste. Là, non, c'est plutôt de l'émotion qui peut paraître un poil gnangnan, mais finalement, non, ça passe. Et puis, il n'y a pas que de l'émotion, il y a plein d'autres choses à raconter derrière. Et avec ça aussi, on a des personnages qui sont super bien construits, qui sont attachants et charismatiques. Donc, on a Sully, le monstre poilu et cornu. On a Bob, le petit cyclope sphérique qui se balade complètement à poil, comme la plupart des monstres. On a Boo, la fillette d'environ 2 ans, poil aux dents. Ouais, okay. En fait, depuis tout à l'heure, je dis poil sans arrêt exprès pour voir. Vous avez remarqué.
C'est vrai.
Et les amoureux de la langue française se délectent. Hein, c'est...
Ah bah là, je pense que l'Académie française va te contacter avant la fin de l'épisode.
Ah oui, oui, oui.
En vrai, voilà, il y a des personnages qui sont géniaux. Moi, j'aime beaucoup Germaine. Avec sa petite voix, elle est souvent dire « Je vous ai à l'œil, Razovski. Je vous ai toujours à l'œil. »
Il vient de me péter les oreilles, quoi. J'étais pas prêt. C'était pas ma guerre.
Il fait des essais sur nous pour savoir s'il peut lâcher son taf et se lancer dans la voix off. Mais du coup, ouais, continue ton taf un peu encore.
C'est nickel. Donc voilà, et surtout, comme dans tous les Pixar, il y a cette fameuse double lecture. Car non seulement ce film est divertissant, drôle, riche, réfléchi, donc il convient à toute la famille, mais il a aussi cet aspect d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc on peut réfléchir comme on veut, hein. On peut y voir un parallèle avec notre monde, parce qu'au final on y dépeint un milieu concurrentiel, d'une entreprise menacée de fermeture face à la pénurie de ressources, où du coup tous les coups deviennent permis pour sauver l'affaire. Après, faut pas oublier que c'est aussi un film pour enfants, donc du coup, on va aller faire s'interroger sur les apparences et la peur de l'autre. Est-ce qu'elle est toujours justifiée? Et ceux qu'on considère parfois mauvais sont-ils tout simplement incompris, inconnus? Enfin voilà, ça permet de poser des questions aussi aux enfants. Et ça, pour certains adultes, ça pourrait être pas mal aussi de se poser ces questions. Et puis vers la fin, on commence à se demander, est-ce que les monstres, ce ne serait pas tout simplement nous? Les enfants s'attachent aux monstres que nous sommes malgré nos défauts. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, c'est un niveau que j'ai vu. Il y en a peut-être sûrement d'autres que j'ai pu rater. Bah, souvent dans les Pixar, c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, pour un film d'1h20, je trouvais que c'était assez remarquable. Je pense qu'il aurait mérité le premier Oscar du meilleur film d'animation de l'histoire. Mais cette année, c'est un autre gros monstre vert qui a décroché la timbale.
Oh non.
Shrek!
Putain de Shrek.
C'est bien aussi Shrek.
Ouais,
Shrek,
ouais, c'est bien, mais...
Dans son genre, c'était révolutionnaire aussi.
Pour le coup, ouais, Monstre et compagnie, moi, je sais que j'adore aussi.
Je suis hermétique.
Je trouve que la partie... ce qui est intéressant, c'est quand on se dit que les monstres, en fait, ils sont plutôt gentils. Sully, on voit très bien que c'est quand même un ours, il est tout gentil, mignon, qu'en fait, en vrai...
Alors qu'on utilise les peurs, en vrai.
Et en fait, derrière aussi, c'est intéressant de voir que pour les monstres, les humains sont des monstres, en fait, du coup, la peur qu'ils ont. Ouais, donc du coup, t'as vraiment dans les deux sens, on est un peu le monstre. On est tous le monstre de quelqu'un, un peu, ça fait un peu ça, quoi. Ça fait un peu ça. Derrière.
Puis ouais, voilà, t'as des monstres qui vont être méchants, mais du coup, qui finalement ont le cœur tendre. Et puis, d'autres monstres qui ont l'air d'être bienveillants, et en fait, il s'avère que voilà, ça va être les méchants de l'histoire. Donc, non, c'est bien construit, surtout. Encore plus pour un gamin d'avoir ce genre de surprise. Quand je vois ma fille qui regarde beaucoup la Patte Patrouille, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de surprises dans la construction des personnages. C'est un petit peu tout le temps pareil, quoi. Je pense que le jour où je vais lui montrer ça, elle va être surprise, quoi. Elle va réaliser que waouh, putain, en fait, il peut y avoir un méchant gentil et inversement, quoi. Mais bon, après, ils sont bien rattrapés sur les Oscars Pixar, ils en ont eu 10 depuis.
Oui, bah tu m'étonnes. Moi, c'est encore une fois un truc que j'ai découvert sur le tard, puisque je pense que je l'ai vu pour la première fois de là, Saint-Malo, il y a 2 ans. Je l'ai dû le voir il y a 2 ans pour la première fois. Et quand je vois l'effet que ça a eu sur moi adulte, je me dis que ado, parce que oui, il serait sorti à la fin de mon adolescence, au début de mon adolescence, j'aurais adoré, c'est sûr. Bah, il est vraiment hyper drôle, ce film. Merci beaucoup, monsieur Pépé.
Merci bien.
Alors, tu vas passer ton tour maintenant et on va laisser la parole à celui qui habituellement nous accueille, Mollusque.
Bah, et donc, t'as pas l'air enjoué de me donner la parole.
Bravo,
péché. Vous irez rejoindre le reste du peloton pour vous faire exécuter.
Je peux te la faire en mode Pokémon cocaïné, si tu veux. Mais
Non, ça me va.
Il y a une différence entre cocaïné et ce que t'as fait quand même. Il y a un middle, hein. C'est moyen.
Bon,
bah du coup je vais démarrer. Donc je vais faire ma chronique sur Undertale. Hein. Charlie, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure pendant le quiz. Donc Undertale, c'est un jeu qui a été développé par Toby Fox, édité par Toby Fox, dirigé par Toby Fox, avec une musique composée par Toby Fox. Donc, autant dire que le mec se prend pour Hideo Kojima, quoi. C'est un jeu du style jeu de rôle en pixel art. Ça reste trilinéaire, hein, c'est pas du monde ouvert, qui est sorti en septembre 2018. Alors je vais vous faire un tout petit pitch de l'histoire sans trop vous en dire. Évidemment, c'est plutôt l'introduction du jeu en fait que je vais vous raconter. Donc Undertale prend place dans l'Underground. C'est un monde souterrain dans lequel ont été reclus les monstres après qu'une grande guerre a éclaté entre les humains et les monstres, alors que les deux peuples vivaient en paix à la surface il y a fort longtemps. Et nous y incarnons un petit humain qui est tombé un petit peu par accident dans l'Underground. Et donc bah du coup nous allons devoir traverser tout ce monde souterrain afin d'en sortir pour regagner notre chez nous. Affrontant par la même occasion un bestiaire de monstres très variés. Donc on a un cheval à la queue de poisson, on a une femme poisson, on a des squelettes, on a enfin tout un vrai bestiaire qui est assez bien construit. Hein. Je sais pas combien de monstres il y a.
Est-ce qu'il y a une femme à barbe dans le
Non, mais il y a autre chose d'intéressant sur les.
Toi et tes passions cheloues. <J'avoue. rire>
Donc ça c'est pour le pitch principal. Après il y a toute une histoire qui va se développer autour de notre personnage et des personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure, mais que je vais pas révéler beaucoup plus que ça. En termes de mécanique du jeu, on a trois choix qui vont s'offrir aux joueurs. Quand on tombe sur un monstre, en fait on tombe sur des monstres aléatoirement. On a le choix soit d'affronter les monstres en les tuant, ce qui va amorcer une phase de combat en tour par tour et qui va inclure des phases de shmup. C'est assez dynamique et parfois assez dur d'ailleurs. Prendre la fuite, on a le droit de prendre la fuite. Ou alors se lier d'amitié avec tous les monstres qui viennent se confronter à nous en dialoguant avec eux. Donc là, la mécanique de jeu va changer. Et ce qui va être intéressant, c'est de déterminer la bonne succession de phrases qui va permettre le déblocage d'une option de clémence. Donc en gros, épargner le monstre et se lier d'amitié avec lui.
Donc, ça, c'est des choix que tu peux faire tout au long du jeu. Tu auras toujours ces trois choix.
Ouais, tu les as en permanence.
Tu peux même fuir pendant toute ta partie ou...
Tu pourrais fuir pendant toute ta partie, c'est évidemment l'option la moins intéressante.
Oui, c'est sûr.
C'est soit le dialogue, soit le combat qui sont vraiment chouettes. Sachant qu'en plus, le jeu va te pousser a priori à affronter les monstres, parce que c'est la seule façon qui va te permettre de faire monter les indicateurs qui sont propres au jeu de rôle en fait. Donc il y a le XP et le LV. Je le prononce comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a un sens. Ça, c'était pour la mécanique du jeu, mais en termes de stratégie globale, on a également trois choix qui vont s'offrir. On a la fin dite neutre, je ne vais pas l'expliciter parce que vous allez comprendre par la suite. La fin dite génocide, qui va consister à éliminer l'intégralité des monstres de chaque zone, pas l'intégralité des monstres qu'on croise, mais de chaque zone. Donc ça veut dire vraiment aller les poursuivre et essayer de déclencher tous les combats possibles, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres qui pop. Et quand on amorce cette phase de génocide, il va y avoir une musique super glauque qui va s'amorcer. Il va y avoir aussi un changement dans les comportements des PNJ, à savoir par exemple qu'ils vont commencer à te fuir complètement quand tu vas dans une boutique.
Personnages non joueurs, tu veux dire ? Pour les gens qui connaissent pas.
Des personnages non joueurs, donc oui. Par exemple, dans les boutiques aussi, quand tu vas dans la boutique, plutôt que d'avoir un personnage en face de toi qui va te vendre ses produits, il va carrément avoir fui en laissant juste un mot de supplication pour te demander d'épargner sa famille. Donc toi, tu peux piller la boutique à loisir pour le coup. Et du coup, la dernière fin. Qui est la fin, donc l'autre fin, qui est la fin pacifiste et qui va se consister à se lier d'amitié avec l'intégralité des monstres du jeu. À noter que pour moi, le jeu récompense quand même la gentillesse, puisque avant l'affrontement final, on a... Ça te fait marrer ?
Oui. Maintenant, je vois la tronche d'Angelo et je sais que ça doit le saouler que ça soit la fin préférée du jeu parce que c'est pas du tout celle qu'il choisirait.
Ouais, j'ai rien dit. En fait, toutes les fins sont intéressantes, mais voilà. Pour moi, celle-ci est plus satisfaisante. Dans le sens où, en fait, avant l'affrontement final, on va apprendre ce que sont l'EXP, c'est-à-dire les Execution Points, et le LV, qui est le Level of Violence, donc en bon français, le degré de violence, si tu préfères. Et donc, du coup, tu vas avoir à faire un jugement à ce moment-là. Si tu as buté tout le monde, je peux te dire que tu vas en chier. Tu vas vraiment en chier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on adopte la voie pacifiste, on est souvent gratifié d'un dialogue qu'on n'aurait pas eu, et surtout d'une fin qui est vraiment beaucoup plus cool. Quoi. Pour illustrer ce truc-là, j'ai pris l'exemple des deux gardes royaux que je trouvais assez édifiant. Quand on est en mode génocide, on va juste les buter. Quand on est en mode pacifiste, En gros, il va falloir trouver la bonne succession d'actions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en gros, les actions réalisées sont 1. Nettoyer l'armure d'un des deux gardes qui sont en face de vous en la frottant. Ça va faire chauffer l'armure. Ce garde-là va retirer son armure, son plastron, parce qu'il aura chauffé. Donc, ça provoque un émoi du second garde qui voit le torse nu de l'autre. Il dit, oh, putain, il commence à rougir et tout. Donc, toi, tu vas lui murmurer à l'oreille d'avouer d'être franc avec ses sentiments. Et du coup, ça va débloquer l'option de clémence. Tu les épargnes et là, ils se barrent ensemble. Ils s'avouent leurs sentiments et vont bouffer une glace ensemble. Quoi.
Donc, ok.
Voilà. Ouais, moi, je trouve ça vraiment très intelligent.
Ah, c'est malin.
D'amener des éléments de scénario. Quoi. Donc, bah, pour faire un petit peu un résumé de mes impressions, une conclusion sur le jeu, moi, c'est Undertale, c'est un jeu qui a bénéficié de beaucoup de soins dans sa conception, que ce soit en termes de scénario, de mécanique de jeu. Désolé Pépé, mais pour moi, on n'est pas dans un Last of Us, The Last of Us, où le scénario est vraiment cool, mais les mécaniques de jeu sont un peu.
Bon, bah, pour le coup, The Last of Us, c'est un génocide, quoi. Là, t'as pas d'autre choix, là.
Le chara-design, la musique, l'humour, tout... et même il y a un petit peu de tolérance parce que du coup on a des personnages lesbiens dedans, donc moi ça m'a un peu fait marrer. Et puis c'est pas forcément partisan parce qu'on n'est pas dans The Last of Us.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez open comme jeu en termes d'état d'esprit.
Ouais, non, c'est vraiment très très cool. Et enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de donner beaucoup de choses aux joueurs. Ouais. Ça donne une bonne rejouabilité au jeu. Hein.
Si tu te rates, par exemple, tu es face aux deux gardes là, de tout à l'heure et tu fais pas les bons choix, du coup, c'est foutu pour avoir la meilleure fin, ou tu peux encore te rattraper ou
en arrière. Ça dépend. Moi, j'en avais parlé à Charlie de ce truc-là. Il y a une fois où je m'étais foiré sur ma fin pacifiste parce qu'à un moment donné, tu es poursuivi par le premier garde du royaume souterrain, donc qui est la femme poisson dont je parlais tout à l'heure, qui est d'ailleurs une des deux lesbiennes, en fait. Et du coup, elle te poursuit en permanence. Toi, tu es en train de fuir. Et à un moment donné, tu vas traverser un environnement de lave. Sauf qu'elle, bah, c'est une femme poisson, donc elle en peut plus, quoi. Et tu vois, tu passes devant une fontaine, mais tu te casses parce que tu flippes, quoi. Et en fait, la stratégie, c'était d'aller chercher un verre d'eau et d'aller lui donner au moment où elle est en train de s'effondrer, quoi. Et ça, j'avais foiré ma fin pacifiste à cause de ça. Donc il y a des petits trucs comme ça, quoi. Mais en vrai, le jeu est
très... donc c'est pas une fin. Finalement, c'est la fin la plus difficile à avoir, peut-être, la fin pacifiste. Ça implique de faire les bons choix, même à des moments où le jeu essaye de te piéger. Quoi.
Ça se joue dans les détails, quoi. Enfin,
en fait, la fin
pacifiste... Après, buter tout le monde, bon, bah, c'est pas compliqué, tu vas, tu butes tout le monde.
Puis tu te fais plaisir, en plus.
Mais alors, ouais, et c'est peut-être pour ça que c'est plus gratifiant aussi, c'est que c'est peut-être plus facile. Mmh. Je l'ai pas fait, je...
Bah, la fin génocide, elle est compliquée dans le sens où t'as un combat final que t'as pas normalement. En gros, il y a le personnage de Sans, qui est un des squelettes, qui est censé être ton pote dès le début dans le jeu. C'est lui qui va établir le jugement du level of violence dont tu as fait preuve pendant le jeu. Quoi. Et en fait, lui, c'est un glandeur invétéré. Sauf que là, tu as buté son frère, tu as buté tous ses amis. Quoi. Donc, il te défonce. Et c'est vraiment le combat le plus difficile du jeu. Quoi.
Enfin, ouais, mais tu vois, du coup, c'est...
C'est deux modes de jeu différents, en fait. Faut les voir comme deux modes de jeu différents.
C'est combien d'heures de jeu
Bah pour une partie, je te dirais bien 5 heures.
D'accord. Ah oui, donc ouais, si tu te rates.
Moi j'ai 50 heures sur ce jeu parce que je l'aime trop et que du coup à chaque fois que, enfin ça m'est arrivé une fois de foirer une fin, donc je l'ai refait. Et puis je l'ai refait aussi pour la chronique.
et je suis très content.
Ouais, tu m'étonnes, c'est ce que j'allais dire.
J'ai bien pris
je l'avais essayé, j'avais opté pour la technique de la fuite. J'avais fui mon canapé et ma manette. J'avais pas accroché, mais parce que en fait, en anglais, il y avait plein de mots que je comprenais pas en fait.
Justement, je voulais en parler.
Parce que sur PS4, je crois pas qu'il ait été traduit depuis.
Alors
à l'époque, il n'y avait pas, et là c'était une grosse barrière, quoi, parce que t'as beaucoup de mots un peu particuliers, et vu que si tu veux être pacifiste, faut quand même bien réfléchir à ce que tu vas faire. Si tu comprends pas, c'est un peu chaud, quoi.
Ouais, puis c'est dommage de pas pouvoir profiter des dialogues, mais je crois pas qu'il y ait de traduction officielle, malheureusement. C'était un point que je voulais aborder justement, c'était la communauté qui est autour du jeu, qui s'est montée autour de ce truc-là. En gros, ça a vraiment cristallisé une grosse communauté, donc notamment qui a réalisé des traductions gratuites du jeu. Donc faut un peu bidouiller les fichiers, mais au moins c'est là, quoi. Ça existe. Y a des mecs qui ont fait des cartoons de fans qui tournent notamment autour du personnage de Sans, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, un des squelettes qui est le boss le plus vénère. On a pas mal de cosplay aussi en convention. Et si ça vous intéresse, il y a un putain de concert philharmonique qui a été enregistré au Japon pour les 5 ans du jeu. Et c'est juste mortel, quoi. Donc je mettrai, je l'ai déjà mis dans les sources, là, Charlie, comme ça tu pourras le mettre. Et c'est vraiment magnifique parce que la musique, elle défonce, quoi.
Ça sera dans la description, du coup.
Ah, mais t'as un vinyle, d'ailleurs, de...
Eh bah oui, je l'ai à côté de moi, là. Donc voilà, et puis... Ouais, vous verrez peut-être pas très bien, mais à l'intérieur du vinyle, il y a un aperçu de tous les personnages.
Ouais, enfin, tous les monstres et tout. Cool. Il est pas mal, il est beau.
Ouais. Il est beau. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, sauf si vous avez des questions, messieurs.
Bah vas-y, Pedro.
Pardon, une très technique, parce que un truc dont on parle pas souvent, toi tu joues sur PC, ça nécessite quelle configuration pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient jouer?
Ça tourne sur un grippin.
D'accord, donc n'importe quel petit ordinateur,
c'est du pixel art, donc
même avec quelques années, fait tourner ça. Très bien.
En fait, le jeu s'est positionné de façon ambitieuse sur tout ce qui va être scénario, mm-hmm. dans une moindre mesure le gameplay, mais le gameplay pour moi reste très bon. Hein. Il y a des phases de shmup qui peuvent être très jouissives, parce que très compliquées, et quand tu y arrives, t'es content. Voilà, et sinon, le jeu tourne très bien sur un PC, ça n'a pas besoin d'être surboosté, quoi.
Très bien, merci beaucoup. Tu avais une question, pardon, Jérémy.
Non, bah ça revenait un petit peu à ce que tu demandais. Moi, dans mes souvenirs, c'était limite niveau NES, les graphismes. Peut-être un peu plus de couleurs, mais c'est vraiment très, très... Même sur Super NES, les jeux étaient plus jolis. Après, c'est voulu, c'est pas des contraintes techniques, mais... Est-ce que ça peut pas être un peu rebutant un jeu qui ressemble à un vieux jeunesse
C'est du design un peu grossier peut-être. Ouais. Moi c'est quelque chose que j'affectionne donc évidemment ça marche sur moi. Je pourrais comprendre que quelqu'un ne puisse pas aimer, surtout quand tu sors d'un Limbo ou d'un truc comme ça qui est un peu plus travaillé, même en termes de lumière.
Tiens, d'ailleurs je me souviens plus, les musiques c'est du 8 bits aussi ou c'est là pour le coup c'est de la vraie musique
J'ai l'impression que c'est un truc hybride parce que ça veut se rapprocher du 8 bits, mais il y a quand même vachement plus d'organique que ça. Ouais. Quoi. Donc, je pense qu'il a opté pour une solution hybride.
Et une dernière petite question là, parce que moi, c'est le genre de jeu avec un concept un peu pixelisé comme ça qui peut m'intéresser, mais si c'est pas très très long, ça dure combien de temps en gros?
Est-ce que je te disais une partie, t'en as pour 5-6 heures?
Il a rien écouté, Pedro.
Ah, si, clair, il a rien suivi.
Non. Pour finir le jeu de façon complète, c'est-à-dire avoir les trois fins, si tu veux vraiment le poncer.
3 x 5.
Bah ouais, tu fais 3 x 5.
Non, mais Molly, ça va pas être d'accord s'il a passé 50 heures.
Non, mais c'est qu'en fait, il y a véritablement 5 fins. Pour être très chiant. Il y a. Ouais, en fait, t'as la fin pacifiste, t'as la fin génocide, tu as la fin neutre, tu as la fin pacifiste post-génocide qui va te rapporter encore une autre fin. En gros, le jeu va garder en mémoire les fins que tu as déjà acquises.
D'accord.
Et donc, quand tu refais une pacifiste après avoir fait une génocide, tu vas avoir une autre fin, et quand tu refais une pacifiste après avoir fait une génocide, tu vas avoir encore une autre fin, donc ça t'en fait 5 en tout, quoi.
Merci beaucoup. Vous voyez qu'elle était bien ma question, bande de cons.
Non, ça change rien. Hein. Si tu fais toujours 5 x 5. Hein.
Oui, mais ça, tu le savais pas avant que je pose la question.
Ah oui, mais ça, c'est Wallus qui nous a pas tout bien expliqué.
C'est pas faux. Bien, Angelo, après avoir vulgarisé de façon brillante le langage sous Tolkien il y a quelques mois, tu as décidé de t'attaquer, encore une fois, à un espèce de monument. De quoi donc vas-tu nous parler ?
Un jour je serai le meilleur dresseur, je me mettrai sur un pied, je ferai tout pour être vainqueur, et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, les traquant avec espoir, les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir.
Voilà. On va sûrement...
C'est tellement frustrant de s'arrêter là et de pas faire le...
Bon, allez, on fait le poker rap.
J'ai rien.
Ticotard, Liputu.
Bon, bref.
Non, mais sans déconner. Là, on s'attaque...
Tu parles de quoi, là?
Un jour, je serai...
Non.
aujourd'hui on s'attaque à un truc qui m'est aussi alors aussi cher non mais qui m'est très personnel en fait, comme la chronique que j'avais fait sur Blood Meridian dans le western, parce que moi c'est un renvoi direct à l'enfance. Donc oui, je vais vous parler de Pokémon. Je vais vous parler de Pokémon. Tu l'as dit toi-même, c'est un monument de la culture, mais je vais venir sur les chiffres seulement à la fin de la chronique, parce que Pokémon en soi-même, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire en termes de chiffres. Je vais vous expliquer ça en quatre parties. Je vais vous faire une référence à l'enfance, parce que Pokémon, c'est vraiment l'enfance d'abord. Je vais vous expliquer brièvement l'histoire de Pokémon. Je vais vous expliquer le contexte, comment Pokémon est écrit, parce que c'est presque par accident que ça a existé, les Pokémon, et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis très brièvement, et pas très exhaustivement, mais pourquoi, grosso modo, ça a marché? Pourquoi c'est devenu ce truc monstrueux que c'est aujourd'hui? Donc voilà, l'enfance, Pokémon, pour moi, c'est d'abord l'été. C'est la chaleur, le soleil qui écrase, le barouf des criquets derrière, le jardin, les shorts, les genoux écorchés, t'es sous un arbre, t'es dehors, tu cherches l'ombre. Et comme t'es sur une Game Boy, tu cherches le plus d'obscurité possible pour espérer discerner les pixels noirs sur un fond vert kaki. Si vous avez eu des Game Boy, vous savez de quoi je parle. Vous avez en principe 4 piles en RAM dans votre poche, au cas où. Vous avez la version bleue, une cartouche qui est toute bleue avec un tortank dessus. Vous avez des gangs de gamins dans les rues qui sont assis sur le caniveau. Vous avez des copains d'école que vous pouvez reconnaître. Vous avez des fesses posées le long des trottoirs. Et vous avez vos yeux rivés sur votre équipe de Pokémon. Quand vous êtes enfant, ça, c'est un rêve. C'est un monde imaginaire que vous avez, qui se construit dans votre tête. C'est le remède anti-solitude ultime. Quand vous êtes gamin, et pour le gosse que je fus, Pokémon, c'est Sacha avec son Pikachu sur l'épaule qui font la couverture des magazines People des ménagères à la caisse du supermarché. Ça, on l'avait jamais vu avant, on l'aura jamais vu depuis. C'est la une à la télé, c'est au journal de 20h, c'est dans les journaux, les magazines, les chroniques, les espaces des adultes qui essayent de comprendre pourquoi un phénomène d'une telle ampleur. Bon, bref, l'histoire Pokémon, c'est simple. T'es un gamin, t'es au milieu de nulle part. T'es dans un village, t'es dans un patelin perdu. Il y a un vieux, un professeur dans ses recherches qui pense à toi, qui t'envoie une invitation dans son laboratoire pour te confier quelque chose. Donc vient le choix, t'as 3 Pokéballs. Chacune contient un Pokémon. Une créature imaginaire, un mélange d'animaux réels ou mythologiques avec des pouvoirs élémentaires, donc l'eau, le feu, etc. qui sont extraordinaires. Des créatures que toi, en tant qu'enfant, tu apprivoises, qui n'appartiennent et ne répondent qu'à toi, leur maître. C'est quelque chose qui est grisant. Le seul mot d'ordre, en plus, derrière, c'est de parcourir le monde. Donc ton seul mot d'ordre, c'est d'explorer, de rencontrer, de capturer, d'apprivoiser d'autres Pokémon et de devenir le maître, avec un grand M, le plus grand dresseur du pays, en vaquant tous les autres dans les combat en faisant évoluer tes Pokémon. Le contexte brièvement, c'est Satoshi Tajiri qui l'a avec son pote Ken Sugimori qui dessinera les 151 premiers Pokémon. Donc en fait, c'est deux Japonais qui, adolescents, tenaient un fanzine de jeux vidéo de 80 à 86, et ce fanzine, ils l'ont appelé Game Freak, qui deviendra plus tard le nom de leur futur studio de développement, en 89 d'ailleurs. Quand Satoshi, en fait, il a découvert le câble Link en 1990, qui permettait de relier, vous savez, deux Game Boy entre elles, et ben, il a eu une idée qui l'a renvoyé à sa propre enfance, comme un rappel, une Madeleine de Proust. Lui, sa passion, quand il était gamin, c'était de collectionner des insectes. Donc il s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un jeu dans lequel les joueurs pourraient les collectionner et ensuite se les échanger via ce câble. Donc le type, sans le savoir, il vient d'avoir une idée qui lui rapportera... aujourd'hui, en fait, on ne sait toujours pas combien ça lui a rapporté. On estime que c'est un des mecs les plus riches du Japon, donc accessoirement les plus riches du monde. Je pense que lui non plus n'est même pas conscient de la fortune que ça lui a rapporté. Donc il proposera son idée à Nintendo, qui sera direct accroché, et dont un certain Shigeru Miyamoto, entre parenthèses, le papa de Mario, Link, Zelda, Donkey Kong, enfin bref, voilà, sera personnellement investi dans le projet. Donc on passera par Shigeru de l'idée d'insectes à des créatures élémentaires. Donc c'est lui, en fait, qui va avoir l'idée d'avoir des Pokémon feu, des Pokémon eau, etc. Donc il faudra 6 ans pour développer le jeu. La boîte, elle manque de faire faillite parce que c'était une toute petite boîte. Les mecs travaillaient sur du vide. Les devs, les développeurs, ils n'étaient pas payés. Bon bref, je vous passe les détails. Quand Pokémon sort en 96 au Japon, c'est pas du tout un succès. Donc Nintendo, il s'y attend, parce que à cette époque, la Game Boy, elle est en fin de vie. Eux, ils sont déjà tournés vers autre chose, donc voilà, c'était une sorte de jeu de fin de cycle. Mais là où ça commence à titiller, en fait, c'est que les ventes, elles grimpent très progressivement, lentement mais progressivement, en fait. Et elles grimpent, en fait, par effet de bouche à oreille. Et ça, pourquoi? Parce que les gars, bordel, c'est le câble Link, échanger, partager des Pokémon, se battre, en fait, les joueurs, à cette époque, déjà communiquaient entre eux vis-à-vis de ça. Donc les ventes, elles commencent à percer au Japon, et puis quand elles percent au Japon, Nintendo envisage d'exporter, et là je vous fais pas la suite, ça devient un cataclysme.
Bon, donc pourquoi ça marche? Le câble Link, je l'ai très peu utilisé, quoi. Je l'ai vraiment joué un peu en alone, tout seul, le Pokémon d'origine, mais pas trop avec le câble Link.
Pareil, moi, la plupart du temps, c'était en solo. Pourquoi ça marchait sur moi, gamin? Alors déjà, si ça marche toujours sur moi, mais ça, c'est plus par effet de nostalgie. À l'époque, c'était la même chose pour tous les gosses. L'affection d'avoir des créatures qui n'appartenaient qu'à toi, que tu pouvais entraîner, qui avaient des attaques et des pouvoirs extraordinaires. Tu pouvais te réaliser en tant qu'enfant. Enfin, tu pouvais accomplir quelque chose dans le monde imaginaire, qui était Pokémon, mais tu pouvais accomplir quelque chose dans ce monde en tant qu'enfant. Et c'était un réel échappatoire. Tu pouvais fantasmer ce monde, en fait, qui était merveilleux, et ça l'est toujours, même si aujourd'hui ça a 25 ans, et 25 ans, putain, quand on voit le succès que c'est toujours Pokémon aujourd'hui, c'est juste c'est pas prêt de s'arrêter, c'est juste incroyable. Et pour moi, donc, j'en reviens à la chose de base, Pokémon c'est l'enfance, et ça sera toujours l'enfance, voilà. Et t'as un Molus qui est en train de serrer son Pikachu.
Non, son gros Pikachu.
Son gros Pikachu, est-ce que c'est un bon gros Pikachu qui a déteint d'ailleurs. Et
il fait un quoi, il est nourri lui, mais...
Ouais. Alors, je parle très vite parce que bon, c'était quand même important de vous parler des chiffres. C'est dur d'imaginer Pokémon en termes de chiffres, mais je vous en donne quelques-uns. Donc, oubliez Disney, oubliez Star Wars, oubliez Marvel, oubliez HP. Tout ça, HP, Harry Potter, tout ça, c'est de la pisse de chat. Ici, on s'attaque au mastodonte ultime de la pop culture, à la licence produit culturel le plus imposant de l'histoire. Pokémon en chiffres, c'est plus je ne vous parle, rappelez-vous, que depuis 1996. Hein, Disney, c'est 1928, Star Wars, c'est 77, etc. Plus de 100 milliards de dollars de revenus depuis 96. Disney en est à peu près à 80 milliards, Star Wars à moins de 70, etc. Pokémon, c'est la deuxième licence de jeux vidéo la plus vendue au monde derrière Mario. Plus de 368 millions de copies vendues. Pokémon Go, c'est plus de 1 milliard de téléchargements depuis que ça existe. Pokémon Go, je vous rappelle que ça existe depuis quoi? Les 5 ans, peut-être, à tout casser. Donc, c'est là que vous voyez que Pokémon s'est totalement pérennisé. Enfin, c'est un truc qui n'est plus rien à voir avec de l'ordre de la mode. L'adaptation animée aujourd'hui en 2021, c'est 23 saisons. Donc ça fait représente alors environ, j'ai fait les comptes moi-même, mais je suis pas à ça près, voilà, 1140 épisodes distribués dans 169 pays. Donc je vous laisse imaginer les traductions dans toutes ces putains de langues. Donc voilà, c'est juste incroyable. Pokémon en 2021, c'est la marque de jouets la plus vendue au monde. C'est la marque de cartes la plus vendue au monde, avec plus de 30,4 milliards de cartes vendues. La série principale de jeux, ça représente 32 titres. Je vous passe tous les spin-offs. Tout le reste, ça représente 8 générations de Pokémon pour 898 Pokémon au total aujourd'hui en 2021.
Putain.
Pokémon, en 2016, pour ses 20 ans, qu'est-ce qu'ils se font? Bon, ils s'autorisent un petit spot spécial de plus de 30 secondes pendant la mi-temps du Super Bowl, et pas n'importe quel Super Bowl, les 50 ans du Super Bowl, juste pour la réédition des versions rouge, jaune et bleu sur le Nintendo Store quand c'était la Nintendo 3DS. Je vous passe toute la psychanalyse, le fond du pourquoi. Alors, il y a des enfants, si vous vous souvenez, des faits divers, qui se jetaient du balcon parce qu'ils se prenaient pour des roucoules, enfin, tous ces conneries. Et, il est impossible en moins de 10 minutes d'évaluer, de rendre compte dans une si petite chronique l'impact culturel et le poids de Pokémon et de son imagerie sur les gens et les enfants de la culture populaire en général depuis 1996. Je finirai juste par Digimon, donc on en a parlé au début, en 1996, qui était le premier gros rip-off dégueulasse. Il y a eu plein de jeux vidéo, il y a eu Jet Cocoon qui était un essai des studios Ghibli dans le jeu vidéo de faire la même chose, où il fallait collectionner et faire se battre des monstres, mais Pokémon est resté le mastodonte dans cette catégorie, et Nintendo, jamais ils auraient cru avoir autant d'or dans les mains. Pokémon à lui tout seul pérennise tout Nintendo, en fait, et n'oubliez pas que Pokémon n'est que la deuxième meilleure licence de Nintendo, donc ça vous donne son poids dans l'industrie. Voilà,
merci beaucoup. Coup,
putain, il est trop scène sur le front là. On sent qu'il y a eu du débile.
Vu qu'il y a eu la masse à dire, il est passé, il est à 11 minutes, il est bien, il a réussi.
Ah putain, fallait que je respire.
On sent qu'il pourrait en parler pendant encore une heure.
Je vous ai tellement rien dit. Ouais.
C'est un phénomène quand même.
Je touche plus trop à Pokémon. Enfin, en vrai, j'y joue plus spécialement. Mais oui, une grosse nostalgie sur l'animé et sur le jeu de FISCA. Mais c'est vrai que j'ai pas refait les derniers jeux. J'ai jamais joué aux cartes.
En fait, les jeux sortis par Nintendo me tentent plus. Par contre, tu m'as reparlé de mode.
Les hacks. En fait, c'est bien que Chacha, tu parles de l'animé parce que. L'animé de Pokémon, la deuxième saison, c'était les îles oranges qui n'existaient pas dans le jeu vidéo. Et Pokémon, ça fait partie des jeux les plus hackés. Donc, tu as la version, par exemple, Rouge Feu, qui était un remake de la version rouge qui était sur GBA, donc Game Boy Advance. Ils ont hacké le jeu pour en faire la version orange, où du coup, ça se passe sur les îles oranges. Et c'est génial, c'est trop bien. Et du coup, on est dans du pixel art typique Super NES, GBA, qui est pour moi le meilleur pixel art. Et c'est trop cool, J'ai toujours autant de plaisir d'y jouer.
Il y en avait aussi d'autres hacks où à chaque fois qu'un Pokémon mourait, par contre, tu pouvais
oui,
pas
le soigner.
Il y avait des trucs très punitifs. Ah ouais. Et même, je crois qu'il y en avait qui étaient même à la limite de l'horreur. Quoi. Enfin, l'ambiance était complètement changée.
T'en avais un qui était un peu en mode Tchernobyl. Enfin, ouais, ça a été ultra accaparé juste en termes de hack Pokémon. Ouais, carrément.
Si tu veux te lancer dans Pokémon, tu es obligé de commencer par les toutes premières versions ou tu peux prendre n'importe laquelle et.
Tu peux prendre n'importe laquelle.
C'est un peu toujours la même chose, non ?
Le début est toujours le même. Tu étais un gamin dans un patelin perdu. Les seules versions qui ont vraiment été différentes, c'est la version noire et blanche, qui avait totalement relancé à l'époque parce que justement, ça remettait en question le concept même de Pokémon qui était de collecter des monstres. C'est-à-dire que tu commençais en tant que gamin, comme dans toutes les autres versions, donc tu es content de les collectionner, de les faire se battre. Et puis en fait, tu tombes sur une organisation qui est comme la Team Rocket, sauf que eux, c'est pas des méchants, mais en fait, c'est les gentils. Ils se disent, mais en fait, gamin, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Enfin, tu captures des monstres, tu les fais se battre, etc. Et ce jeu, il était génial. Enfin, noir et blanche, t'avais pas accès aux autres Pokémon des générations précédentes. Enfin, c'était une sorte de reboot du truc et qui était vachement plus adulte. Et voilà, celui-là, alors tu vois, il y aurait deux départs. Tu peux prendre n'importe quelle version de Pokémon, mais si tu veux un truc un peu particulier, je commencerai par la version noire et blanche.
Et ce que j'ai trouvé exceptionnel, moi, c'est la dernière version, le Pokémon Go. Enfin, là, pour le coup, même moi qui suis pas trop, enfin, pas spécialement Pokémon, même si j'ai joué aux versions bleu et rouge gamin, et vu un peu l'animé, je trouvais que, pour le coup, c'était un truc qui relançait totalement la licence auprès d'une génération de gamins de 12, 10, 12 ans, 13 ans. Qui aurait pu passer à autre chose, quoi.
Sachant que le gameplay,
tu joues avec ton smartphone, t'es Sacha, en fait. Clairement, là, t'attrapes des Pokémon dans la IRL, quoi. Tu vois, c'est.
Mais le gameplay est pourri, spécial, quand tu penses, parce que c'est juste ça pour les collectionner.
Tu te fais un peu chier, par contre, quoi.
Hein?
Tu te fais un peu chier au bout d'un moment, quand même.
Ouais, enfin, le gameplay est tout pourri par rapport au vrai jeu, mais n'empêche que le succès.
Oui, bah, c'était un coup de com' incroyable, par contre. Oui.
Voilà. D'ailleurs, juste une dernière anecdote, la pub Pokémon qui était lors du Super Bowl, faut la regarder, les gars, on dirait une pub Nike. Et je pense que c'est fait exprès, en fait. C'est fait vraiment comme une pub Nike, c'est des gamins dans les bas-fonds des rues qui disent un jour j'y arriverai, moi aussi.
Ah, elle est trop bien.
Et à la fin, ça finit dans un stade Pokémon, elle est juste trop bien.
Bien, merci beaucoup Angelo. Et puisque ce soir, on n'est pas à un monument près, Charlie, toi, tu as décidé.
Moi, je suis à un monument.
Presque. Ah, tu as décidé de t'attaquer à l'œuvre de J.K. Rowling, je crois. Alors, par la petite porte.
Exactement. Moi, je vais vous parler.
C'est qu'ils ne sont pas très bons.
De l'œuvre Les Animaux Fantastiques, donc le 9e film dans l'univers Harry Potter, donc le titre original qui est Fantastic Beasts and Where to Find Them. Donc, c'est un film de 2016 de 133 minutes. Le réalisateur, c'est intéressant, il faut le savoir, c'est David Yates. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a fait les 4 derniers films Harry Potter, donc il était déjà dans l'univers comme il faut. Et la scénariste, c'est non moins que l'autrice J.K. Rowling, qui est pour une fois scénariste, pour la première fois. Dans les autres, elle avait juste un droit de regard sur le scénar. Et vite fait, les 4 acteurs principaux, enfin les 5, Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Siddall et Colin Farrell. L'origine... En fait, c'est Les Animaux Fantastiques, c'est un livre qui est présent dans les films Harry Potter et dans les livres, bien sûr, parce que c'est un livre qui est utilisé par les élèves à Poudlard. Et du coup, J.K. Rowling, elle a créé ce livre vraiment en papier, donc on peut l'acheter et tout, et il est très très beau. Il aurait été écrit donc, par un certain Norbert Dragonneau, donc, qui est le personnage principal de notre film, et édité par les Obscurus Books. Tout le monde connaît Obscurus Books,
bien sûr. Bien sûr, évidemment.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est que ce livre? En fait, ça présente en fait les différentes espèces d'animaux fantastiques dans des articles parfois illustrés. Donc la manière de s'en occuper ou de s'en débarrasser pour les dangereux, mais la plupart du temps ils sont pas spécialement dangereux. Leur niveau justement de dangerosité et leur lieu d'habitat naturel. Ça comporte une assez longue introduction exposant l'histoire de la classification des différents animaux fantastiques et les problèmes posés par leur existence par rapport au monde moldu, donc le monde des non-sorciers, ou des non-mages, comme on dit aux États-Unis dans le monde des Harry Potter. Les problèmes liés à la classification permettent également de comprendre les différences entre les animaux, les êtres et les esprits. Les gobelins ne sont pas considérés comme des animaux, mais des êtres. Donc on pourra voir la petite différence. Et les fantômes, bah, c'est des esprits, tout simplement, qu'on peut voir dans les Harry Potter.
Alors c'est quoi la diff entre animal et être?
Je crois qu'il y a une notion de pouvoir interagir avec nous, en gros. Quoi.
Ah oui, ok.
Parce que les elfes de maison sont aussi considérés comme des êtres qu'on met en esclavage, mais c'est pas des animaux.
Ah oui, donc en fait, ils sont considérés comme... J'avais pas conscience de ça dans les Harry Potter. En fait, on rend esclaves clairement des gens qu'on considérait... D'accord.
Après, okay, si t'avais lu vraiment.
C'est ça le monde merveilleux de la sorcellerie.
Ouais. Si t'avais vraiment en lisant les livres, t'as tout un truc parce qu'on sait que la bouffe qui arrive au réfectoire, en fait, c'est des elfes de maison qu'on voit pas.
C'est
l'esclavagisme des elfes de maison à Poudlard.
Exact. Mais pour moi, c'était pas hurluberlu du tout. Je comprenais, mais pour moi, c'était catalogué quand même dans les créatures magiques.
Oui, créatures magiques, c'est général.
Au sein des créatures magiques, tu vas avoir les monstres, les êtres, les animaux, les êtres et les esprits. Et les êtres, en gros, c'est ceux qui ont conscience, quoi, ben, ou qui peuvent établir du contact avec l'humain.
Bah, en tout, excuse-moi pour la digression, en tout cas.
T'inquiète, et puis au moins, c'est plus clair pour tout le monde. Synopsis du film, quand même, tout simplement. Donc, on est à New York en 1926. On n'a pas exactement combien d'années c'est avant l'entrée d'Harry Potter, mais c'est environ 60 ans avant. C'est entre 60 et 70 ans. Il y a une force mystérieuse qui sème le chaos dans les rues de la ville. En fait, cette force, c'est un risque de dévoiler le monde des sorciers aux non-mages, comme ils appellent ça, et qu'on appelle les moldus en Angleterre. Et en parallèle, on a le petit Norbert Dragono qui débarque à New York avec sa valise pleine d'animaux fantastiques. Et certains de ces animaux seront libérés par mégarde dans la ville, et les deux histoires vont se relier petit à petit. Je n'en dirai pas plus. Et donc, ce qui nous intéresse pour cet épisode, c'est les animaux surtout. Et il faut savoir, je vais vous donner les différentes classifications de ces animaux, parce qu'il y en a 5. Donc, c'est à chaque fois, c'est mon nombre de croix. Donc, une croix, c'est classifié comme un animal ennuyeux, tout simplement. C'est même pas gentil ou doux, c'est ennuyeux. On en a rien à foutre. deux croix, c'est inoffensif, possibilité de domestication. Trois croix, c'est ne pose pas de problème à un sorcier compétent. Quatre croix, c'est dangereux, exige une connaissance spécifique, maîtrise possible par un sorcier expérimenté. Et cinq croix, c'est tueur, impossible à dresser ou domestique. Donc dès que t'as un cinq croix, tu laisses tomber.
Ok, alors je vais revenir sur l'ennuyeux, mais du coup, t'as quoi dedans, quoi, à part le lombric qui est pas forcément fantastique.
Désolé, j'ai pas regardé en détail. Mais oui, non, mais je trouve ça juste drôle, juste la classification ennuyeux. Alors qu'après, c'est inoffensif et possibilité de domestication, c'est-à-dire qu'ennuyeux, t'as même pas envie de les domestiquer, quoi.
C'est vraiment. C'est juste s'il est trop relou, quoi. Pourquoi ça existe, quoi?
Alors, il faut savoir que la plupart des animaux fantastiques ont été créés par notre autrice Rowling, J.K. Et donc, enfin, une grosse imagination. Mais il y a quand même quelques créatures mythiques qui sont tirées d'autres mythologies. Par exemple, de la mythologie grecque avec le basilic, le centaure, le chien à trois têtes ou les géants. Il y a en mythologie nordique avec le calmar géant ou les elfes. Là, je parle vraiment de créatures générales hein, pour le coup, parce que les elfes sont dedans. Le folklore français avec le bicorne. Je ne connaissais pas avant, je savais pas
le bicorne.
Et oui, c'est dans Glouton et Dragon, c'est l'équivalent maléfique de la licorne.
Ça se mange avec quoi ça?
Ah bah, c'est lui qui te mange surtout.
On a du folklore arabe et perse avec des ghouls, folklore japonais avec le kappa. Des mythologies en général avec le dragon. Et il y en a aussi y a du folklore écossais, britannique, irlandais, médiéval. Et dans ces quelques créations qu'il y a pu y avoir, qu'on a vu dans Harry Potter, t'as l'épouvantard, le détraqueur, donc ça c'est vraiment créé par J.K. Rowling. Dans les animaux fantastiques, on a le démons et merveilles, le beau truc, le nifleur, il y en a plusieurs. Il y avait aussi le nom sombral dans Harry Potter.
Putain,
les trucs qui tirent les carrioles qu'on voit pas.
Ouais, le sombral, ça m'a fait flipper.
Du coup, ce que je comprends pas, c'est que le Else qu'elle a écrit à la base des animaux fantastiques, c'est plus un espèce de manuel, un guide.
Maintenant, c'est un manuel qu'ils ont vraiment de Poudlard pour quand ils vont faire les cours sur les animaux magiques.
C'est juste un livre qui liste un peu toutes les créatures. Après, l'histoire du film, là, c'est rajouté l'histoire.
On parle de l'histoire de Norbert Dragono, celui qui a écrit ce livre en fait.
Ah ok, d'accord, donc ouais, c'est rajouté.
Et en fait, c'est le livre, c'est moi qui écoute ça,
ouais. Ouais, j'allais te le dire, il suit pas le PP. Hein.
Si, j'avais suivi, mais il y a quand même une distinction.
Non, mais c'est celui qui a créé le livre, en fait, c'est tout un peu son histoire avant de la création du livre, en fait. Et justement, en fait, c'est ce que... Donc, j'ai parlé de ce personnage, qui est quand même très important. En général, c'est soit on l'aime, soit on le déteste, parce qu'il est un peu particulier. Donc en fait, ce personnage, j'ai marqué, il était naïf, généreux et empathique. Et en fait, c'est un fervent défenseur de la nature animale, mais aussi comme humaine, parce qu'il aide aussi beaucoup les humains, en fait, façon logique, en tout cas naturelle pour lui, même s'il a plus de mal à socialiser avec les humains, contrairement à son talent naturel à comprendre les animaux. Et du coup, il a vraiment un esprit animal antispéciste. Ça, j'avoue que c'est juste quand il m'a lu le truc, je fais ouais, c'est un bon mot, ça marche vraiment bien. De mettre au même niveau les droits des animaux et des humains, en gros, dans l'idée. Et dans le film, en fait, il explique que son voyage, c'est pour faire une liste des animaux fantastiques qui peuvent exister, mais aussi dans le but de montrer que, parce que du coup, le personnage en face, il dit ah oui, c'est pour savoir comment les buter. Non, moi c'est justement pour qu'on sache qu'ils ne sont pas méchants, qu'en fait c'est juste ils sont juste incompris et qu'on est là pour les comprendre en fait. C'est important de les comprendre parce qu'en fait du fait qu'on les a compris, la plupart ne sont pas si méchants que ça, en fait.
Il veut pas les mettre dans des arènes pour qu'ils combattent.
Et voilà, ils sont pas comme dans Pokémon. comme Non, mais il a vraiment un esprit animal, et le côté naïf, c'est que quand il parle à des humains, on voit qu'il regarde jamais vraiment en face. Il regarde un peu sur le côté, il a du mal, même si derrière, quand même, dès qu'il y a n'importe quelle personne a un problème, il va quand même aller naturellement aider. Et on voit que son côté naïf aussi, c'est quand il se fait arrêter par le ministère américain. À un moment, quelqu'un lui dit « Mais ce que vous avez là dans votre valise, c'est pour faire quoi ?» Il fait « Bah, c'est juste pour les étudier. » « Ah ouais, bah, vous pourriez aller tuer des gens ?» Il fait « Bah non, pourquoi je ferais ça ?» Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est genre, mais même lui, dans sa tête, il ne pense même pas. C'est pas une logique d'être méchant pour lui. Donc, je trouve qu'il a... Bah, c'est vraiment son petit côté naïf qui ressort. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore ce film, quand même. En plus... Je suis un gros Potterhead, comme on dit, donc j'adore cet univers. Et avoir un nouveau film à chaque fois là-dessus, moi, ça m'a fait plaisir. Normalement, ils en ont prévu 5 au total. Il y en a eu un deuxième déjà de sortie. Donc, à fond, moi, je suis à fond là-dessus. Hein. J'adore tout ce qui est l'univers Harry Potter. Et je trouve que ça suit bien l'idée de ce qu'on peut avoir.
Depuis la fin d'Harry Potter, on n'avait rien eu à part les Animaux Fantastiques.
Bah, il y avait eu la pièce de théâtre, qui était suite future d'après Harry Potter.
Ah oui, exact. J'avais lu le livre, mais j'ai pas vu d'adaptation.
Le livre, c'est juste les paroles du théâtre.
Ouais, hein, du coup, c'est pas passionnant à lire. Ouais.
Et dans les livres, du coup, t'as le livre des Animaux Fantastiques, t'as les contes de Bulder, le barbe de
Biddle.
Ouais, Biddle le barbe.
Biddy Boule.
Et Biddle le barbe.
Millions de gens.
L'histoire de Quidditch aussi en livre. Alors, c'est déjà pas mal. Hein. On est déjà à 10 films, du coup 10 livres.
Moi, je l'ai pas encore vu et je pense le voir, et d'autant plus maintenant que je sais que tu le valides. Voilà.
Bon. Puis le deuxième, t'as un petit Dumbledore plus jeune joué par Jude Law que j'adore.
C'est bien vendu.
Là, tu attises ma curiosité. Ça.
Ouais, par contre, voir un Dumbledore jeune, ça me choque un peu. Quoi. Ça devrait pas exister.
Il doit avoir 60-70 ans, quoi, parce que vu que dans les Potter il a plus de 100 ans.
Ouais, et puis c'est okay. Jules Law, il a déjà plus de cheveux.
En vrai, il est plutôt à la Pedro, à peu près grosse beubard et à peu près bien taillé.
C'est un compliment qu'il te fait.
Ok.
Du coup, dans les Animaux Fantastiques, il est complètement défoncé, c'est ça? Quand tu dis qu'il est comme Pedro.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais trop pas en plus.
Comment il répond trop doucement? Trop peu.
Trop pas, man. Je suis complètement sobre.
Ça va être un taf en montage, ça.
Bien, merci beaucoup, Charlie.
Est-ce qu'on serait pas chaud pour une petite pastille par Pedro?
La pastille. Pedro. Et tout de suite.
And now for something completely different.
Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
On n'est pas bien là, sucer des pastilles Vichy, Jack.
Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis légèrement tintinophile sur les bords.
Ah.
Voilà, donc je vais vous parler de Tintin.
Ah, d'accord, putain.
J'avais pas tinté.
Ouais, mais non, ouais,
je sais pas si t'avais dit Tata.
Dès que vous entendez parler de moi et que ça se termine par Phil, maintenant je sais à quoi vous pensez, bande de salopards.
Ouais. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est pas nous.
Messieurs, ce soir je voulais vous poser une question. Hergé était-il devin?
Non.
On a voyagé sur la Lune, là, je sais plus c'est quoi le titre exactement, mais.
Et voilà, toi tu vois où je veux en venir. Ce soir, on va fact-checker, on a marché sur la Lune. Okay. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de vous, puisque je vais vous poser des questions et on va en débattre tous ensemble et je vous donnerai les réponses, des réponses un peu plus complètes après. Mais je veux interroger un petit peu votre curiosité, parce que la BD est sortie en 53, soit 16 ans avant le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Mmh. Donc forcément, 16 ans avant, on peut imaginer qu'Hergé aurait pu être complètement à côté de la plaque. On va se rendre compte assez rapidement, spoiler alerte, que ce n'est pas le cas. Il était dans le ton.
Moi, pour moi, on n'est jamais marché sur la Lune. Hein. Je veux partir.
Oh, putain.
Il fallait bien qu'il y en ait un qui le fasse.
Platiste.
Donc, premier, je vais commencer par une petite phrase. C'est inouï, c'est prodigieux, c'est incroyable. Dire que dans quelques minutes, ou bien nous marcherons sur le sol de la Lune, ou bien nous serons tous morts. C'est le professeur Tournesol, tout ouais. à fait. Merci, ouais, Jérémy.
Pourtant, je l'ai lu il y a des dizaines d'années.
Ouais, ça fait longtemps.
Ça m'a marqué. Ça
ouais. Et ça, c'est une phrase qui est marquante, parce que la première phrase de Tintin, quand il pose le pied sur la Lune, messieurs, est-ce que vous la connaissez? Elle est déjà beaucoup plus décevante.
Non, je m'en souviens.
Ah bah voilà, j'y suis. Il a dit.
Il a dit j'ai envie de pisser.
Il a dit c'est merveilleux. Bravo. Ah, ah, ouais,
ah, ça va, il a pas fait un vieux jeu de mots à la PP en disant c'est alors... lunaire ou je sais pas quoi. Bon.
Alors forcément.
Ouais, pas bon. Quand t'arrives sur la Lune, tu fais autre chose que oh putain la vue est sympa quand même.
C'est pas faux. Forcément, lui, il avait pas bénéficié des conseils d'Hollywood comme a pu en bénéficier Neil Armstrong le 20 juillet 69. Lors de son alunissage. Messieurs, le 23 mars 1953, les échelons rétractables de la fusée XFLR6, au damier rouge et blanc, qu'on peut identifier au premier coup d'œil, se déploient et Tintin en sort. Il est le premier à poser les pieds sur la Lune. Ça va nous amener à pas mal de petites questions, on va commencer maintenant. Est-ce que vous vous rappelez déjà quel était le pays de lancement de la fusée ?
Ah, c'est un pays imaginaire. Est-ce que c'est un vrai pays?
Est-ce que ce serait pas la Sildavie?
Oh, bravo!
Eh ben, oh, bravo. Vache!
Bravo, ouais, ouais, mais voilà, les gars, c'est ça d'être intelligent, j'y peux rien.
Alors, voilà, ça c'était une question subsidiaire. En fait, la vraie question c'est la Sildavie. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu de la Sildavie? On découvre ce pays dans le sceptre de Tokar.
Oui.
Le plat national, c'est le chien, rappelez-vous.
Oui, putain.
Exactement. Alors, à votre avis, est-ce que la Sildavie, ça pouvait être un pays lanceur de fusées à cette époque-là? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu rivaliser avec l'URSS ou bien les États-Unis? Ou est-ce que c'est complètement taré comme idée?
Je comprends pas la question. En fait. À l'époque de la guerre froide, de toute façon, il n'y avait pas tellement de monde qui pouvait lancer des fusées. Donc, la Sildavie, je serais avec nous.
Ouais, non, mais c'est intéressant.
Tu parles politiquement, en gros, est-ce que eux, ils auraient les moyens en termes de thunes ou est-ce que c'est en termes de géographie?
Non, mais par exemple.
Je parle plus financièrement pour le coup.
Ouais, financièrement, pour moi, c'est pas possible. Après, géographiquement, je sais pas où c'est foutu. Donc...
Géographiquement, c'est une région montagneuse, la Sildavie, je me souviens. Ils le font partir d'un plateau, le truc. Mais voilà, après, bah, c'est un pays imaginaire, donc je sais pas trop, je peux pas trop évaluer le PIB, quoi.
Alors, en fait, pour vous répondre, rétrospectivement, non, en fait, on se rend bien compte que c'est pas jouable. Mais ce que t'as dit, Mollusque, est assez vrai. En fait, en pleine période de guerre froide, on se rend compte que les États-Unis, par exemple, en 53, eux-mêmes n'étaient absolument pas en capacité de lancer une fusée. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont sorti de mieux, c'est une fusée d'ailleurs en 53 qui était à peine meilleure que le V2 allemand de la Seconde Guerre mondiale, qui était lui un missile.
Ouais, okay. Ah,
ça valait pas beaucoup mieux. Donc, techniquement, si même les États-Unis ne pouvaient pas y arriver, Sildavie, il y a peu de chance. C'est un pays très rural, assez pauvre. C'était le pays pauvre de la confrontation avec l'autre pays qui était
la Bordurie. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, il y a quand même assez peu de chance de voir un pays comme ça pouvoir produire ce genre d'événement. Et pourtant, il y a des pays qui ont essayé dans l'histoire et qui ont donné raison plus ou moins à Hergé sur le fait que même un petit pays peut se lancer dans un programme lunaire, puisque le programme spatial de Mobutu. Mobutu avait lancé un programme spatial.
Attends, mais déjà je connaissais même pas.
Le général Mobutu, c'est le qui était donc président dictateur du Zaïre.
Et du coup le programme a abouti ou pas alors?
Alors le programme, bah, du coup je t'invite à aller voir une vidéo très marrante sur YouTube pour voir que le programme
il a foiré, il a explosé des gens quoi.
N'est pas allé tout à fait au bout.
Ok.
Voilà, mais il y a eu confection quand même de fusées et compagnie. Voilà. Donc une
aussi
réponse.
La Belgique, hein. On a eu un grand documentaire dessus sur Striptease. Ah, le gars, il était pas loin de partir avec ça.
Ah mais oui, putain. Donc, dans son jardin. Ah mais oui.
C'est vrai.
Avec sa soucoupe.
Avec sa soucoupe, on a lu là. Putain. Ah,
magique.
Qui fonctionne par la pensée, la transmission de pensée.
Putain, c'est triste et drôle et triste.
Bien. Revenons-en à Tintin. Oui. Et plus précisément à la fusée. Est-ce que vous vous rappelez, pareil comme tout à l'heure, question subsidiaire, est-ce que vous vous rappelez à quoi est tournée la fusée?
Au samplon 95. Non, peut-être à l'uranium.
Ah, c'est pas mal. On n'a pas de précision uranium ou autre.
Énergie nucléaire en général.
Et c'est une énergie, voilà, exactement. C'est une fusée nucléaire. Est-ce que, à votre avis, ça serait faisable dans la vraie vie.
Non, mais... c'est... alors oui, c'est faisable techniquement, mais c'est trop risqué. Quoi.
Ouais, voilà. C'est compliqué. Quoi.
Ouais. Réponse collégiale parfaite. En fait, techniquement, le schéma imaginé par Hergé et par ses amis scientifiques qui l'ont aidé à la conception de la fusée, parce qu'il n'était pas seul, il a fait appel à quelques types assez connus de l'astronautique de l'époque. En fait, son schéma fonctionne. Seulement, il y a un petit problème, c'est que c'est interdit. En fait, c'est dans les grandes règles des programmes spatiaux mondiaux, on n'envoie pas de nucléaire. En fait, c'est une mauvaise idée pour les raisons que vous avez évoquées, si ça tourne au vinaigre. Et socialement, c'est une idée qui serait de toute façon pas acceptée par les populations, et donc on couperait probablement les financements à ce genre de projet. Donc voilà. Par contre, ça permettrait de faire passer le voyage Terre-Lune de 11 jours à environ 4h30.
Je me souviens que
ce serait vraiment possible, parce qu'ils se prendraient trop de jet, les mecs, dans les gars.
Évoluer la technique sur d'autres choses et également, je pense, ouais. Et donc, ce que je vous disais tout de suite, ça a été la fusée de tournesol. Je vous cite la phrase précise. La fusée de tournesol qui fonctionne en faisant chauffer de l'eau ne pose aucun problème particulier au point de vue de la physique. Ça, c'est une phrase que l'on doit à Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Donc, le mec sait quand même un petit peu de quoi il parle. Donc, les mecs se sont penchés vraiment sur le cas.
Ok.
Roland Lehoucq, c'est pas lui qui est président des Utopiales?
Ben oui.
C'est ça. Bah écoutez, messieurs, oui. vous me la prenez.
C'est le président des Utopiales.
Enfin, oui,
je sais pas si on dit président ou directeur, j'en sais rien, mais enfin voilà, c'est
DJ. Ouais. Un
homonyme peut-être ou pas du tout? Forcément, c'est la même personne?
Très bien. C'est pas la même chose.
autre question maintenant, une fusée de cette forme peut-elle vraiment voler?
Elle est plutôt aérodynamique. Bah, c'est un suppo, quoi.
C'est un suppo, mais avec
c'est
pas un suppo dans le bon sens, quoi.
Mais t'as les ailettes un peu.
Alors oui,
peu
par contre, t'as des pattes. Elle était tripode. Enfin, elle avait trois pieds.
Moi, je dirais que oui. Non, mais basiquement, je dirais oui.
Ce serait pas sacrément calé. Mais... Vous êtes calé en Tintin, messieurs. Vous êtes calé en Tintin.
Oui.
Non, en aérophysique, on est calé.
Je vous le disais tout à l'heure, Hergé s'est inspiré un petit peu du travail d'autres gens, de scientifiques. Il leur a demandé des coups de main. Et notamment, il a fait appel à son ami et vieux complice, le scientifique Bernard Heuvelmans. Et celui-ci, qui avait collaboré avec lui pour l'étoile mystérieuse et le temple du soleil, l'a orienté vers Alexandre Ananov. Voilà. Alexandre Ananov, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un surdoué dépourvu du bac qui a écrit l'Astronautique en 1950 et qui est un ouvrage très reconnu pour un type qui n'a pas eu le bac quand même.
Ouais.
Voilà. Ce dernier écrivait pour pas mal de journaux, aussi bien des journaux adolescents que des journaux adultes. Voilà. Et l'idée pour lui de bosser avec Hergé, c'était de permettre aux enfants de connaître les bases d'une science nouvelle. Avec la rigueur qui s'impose. C'est pas parce qu'on lit de la bande dessinée qu'il faut que ça soit trop éloigné de la vérité. Ouais. Et donc il l'a notamment aidé à dessiner la console centrale de la fusée. Il lui a donné des idées de proportions, voilà. Et donc ils se sont basés sur ce que je vous disais tout à l'heure, le V2 allemand, puisque c'était ce qu'on avait de plus évolué à l'époque où Hergé a commencé à bosser. Et donc c'est ce qui donne cette forme en fait. V2 allemand. C'est aussi ce qui donne le damier. Il y avait un damier sur les V2 allemands.
C'est pour calibrer, non ?
Ça permettait de les observer, d'observer leur rotation et donc de faire des calculs à la jumelle. Voilà. Okay. Et ça, par contre, Ananov, qui a été interrogé quelques années plus tard dans une interview hommage à Hergé, le regrettait amèrement. Il disait que c'était franchement le seul truc qu'il fallait pas copier, c'était particulièrement moche, quoi.
Pourtant, c'est iconique maintenant, la fusée de
Tintin. J'allais y venir, c'est iconique. Pour le coup, il a créé un objet qui est connu partout dans le monde, c'est un objet culturel. Ouais. D'ailleurs, il y a énormément de jouets, de répliques qui se vendent. Il y a eu un grand marché il y a quelques années de ça, avec des répliques qui se sont vendues très très cher. Je crois que c'était en Allemagne, voilà, il me semble, à Nuremberg. Je vous en dirai plus tard si vous le souhaitez. Oui, Ananov disait que ça ressemblait à une boîte de pâte Lustucru. Ouais, très sympa comme
Et je vois pourquoi il dit ça.
C'est classe.
Et donc Roland Lehoucq, que vous semblez mieux connaître que moi, messieurs, voit même des avantages à cette fusée qui se découpe pas en plusieurs étages, contrairement au modèle d'Apollo. Je le cite, « Les pattes de la fusée encaissent les frottements de l'entrée dans l'atmosphère, donc tu en parlais tout à l'heure, Angelo. » Qui s'effectue à vitesse réduite, car grâce à sa propulsion interne, la fusée peut se ralentir toute seule, contrairement à Apollo 11 qui se freinait en frottant contre l'atmosphère. Donc, il salue le travail du professeur Tournesol en disant le personnage du professeur Tournesol a pris une importance considérable dans la série. Hergé l'a parfaitement senti. Le héros des années 50, ce n'est plus l'explorateur ou le journaliste, c'est le scientifique. Et ça, c'est l'ergéologue Benoît Peters qui l'écrivait dans son livre, Hergé, fils de Tintin. Tout à fait.
Ergéologue, putain, c'est ouf. Ouais.
Donc, c'est quand même assez hallucinant, 16 ans avant, de se rendre compte qu'on était quand même très proche de choses réalisables. Alors, ça s'est pas réalisé tout à fait de cette façon-là, mais techniquement, on aurait pu faire partir d'une fusée ressemblant un petit peu à celle censée être conçue par Tryphon Tournesol. Une question sur le choix de l'équipage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque un petit peu dans le choix de l'équipage? Voilà.
Ils ont aucun entraînement physique en fait. Enfin, t'as le capitaine Haddock là-dedans.
C'est pas des astronautes quoi.
Ouais, c'est vrai qu'embarquer un alcoolique, c'est pas des spécialistes.
Ouais, il y a du vrai, mais j'attends quelque chose de plus précis.
Il y a qui?
Il y a un mec en plus qui. Moi, je me souviens qu'il y avait un passager clandestin, donc du coup, leurs réserves d'oxygène, elles étaient niquées parce que peut-être un vermeil qui avait réussi à rentrer dedans.
Alors, ça, si tu veux bien, on en parlera un petit peu plus tard.
Ils n'ont pas reçu d'entraînement spécifique, je sais plus.
Alors oui, effectivement, ça c'est lié, c'est tout à fait lié, mais du coup, sois plus précis. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose.
Bah, en fait, là, si tu veux, ils y vont comme ça en mode YOLO, mais en fait, t'es censé avoir un détest cardiaque, enfin, voir justement si tu vas pas clamser.
Et qui est très entraîné à ce genre d'effort à l'époque? Parce qu'à l'époque, on est aux prémices de... Du voyage dans l'espace.
Il n'y a pas de militaires dans l'expédition.
Et si Neil Armstrong, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, ne faisait plus partie de l'armée américaine au moment du voyage, c'était quand même un ancien pilote, et son sidekick, Buzz Aldrin, était encore militaire à l'époque du voyage.
Ouais.
Et dans la mission de Tintin, il n'y a pas de militaire. Il y a des scientifiques,
oui, c'est vrai.
Il y a un capitaine de marine marchande, on ne sait pas ce qu'il fout là, il y a un journaliste,
pourquoi pas.
Un chien.
Il y a le mec qui n'était pas censé être là, effectivement. Il y a les Dupont avec un Dupont et Dupont, Dupont avec un T, Dupont avec un T, qui se retrouvent coincés là-dedans.
On va avoir deux flics avec toi, on sait jamais.
Surtout la gueule des flics. Il y avait leur charcutier aussi au cas où.
Et le fait quand même de pas envoyer de militaires pour ce genre de choses, ça peut paraître assez aberrant, mais on se rend compte que la NASA, en faisant le choix de Neil Armstrong, pardon, qui n'était plus militaire au moment de l'envoi dans l'espace, a quand même réfléchi à ça en voulant pas envoyer un militaire planter un drapeau. D'ailleurs, Hergé lui a poussé le bouchon plus loin. Il n'y a pas du tout de militaire. Et puis, on ne plante pas le drapeau.
Oui,
il
n'y a pas de drapeau.
Il n'y a pas de planté de drapeau. C'est une expédition, pour le coup...
pour le bien de la science. Ouais.
Exactement, c'est ça. On envoie d'ailleurs des scientifiques faire des relevés. Hein, voilà. Autre question maintenant, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez du tank qui permet de se déplacer sur la Lune? Est-ce que vous pensez, par exemple, que c'est un truc qu'on aurait pu envoyer
Il y a eu des temps.
C'est Apollo 16, si je ne dis pas de conneries. Enfin, c'était les dernières expéditions lunaires. Voilà.
Ok. Alors bon, c'était la question piège. Non. Le tank, l'espèce d'énorme truc, là, il y a un consensus scientifique pour dire que, un, ça n'a aucun intérêt, deux, c'est intransportable.
Ouais.
C'était vraiment trop gros. Et effectivement, on envoyait des modules, mais beaucoup plus légers.
Ah oui, mais c'est la question du transport Terre-Lune plus que la maniabilité sur la Lune qui est remise en cause.
Les deux, en fait. Les scientifiques expliquent qu'on n'a pas besoin surtout d'avoir une aussi grosse protection pour se protéger des jets de pierre. Et voilà. Et en plus, je pense que n'ayant pas la même attraction, là pour le coup, je suppute, mais j'imagine que tu ressens pas de la même façon les impacts de pierres tombantes. Donc voilà, pas besoin de matériel si lourd. Les travaux scientifiques de l'expédition tiennent-ils la route?
Alors ils font quoi comme travaux? Parce que je me
rappelle. Je pense qu'ils ramassent des pierres, non? Enfin, ils font pas un truc comme ça? T'aurais peut-être dû nous dire de le relire avant de venir quand même.
Je me rappelle plus ce qu'ils font sur place. Ils font pas badminton, c'est ça? C'est l'idée? C'est
alors, non, mais parle...
Ah, mais il y a un des Dupont qui pisse contre le vent aussi, à un moment donné.
Il y a des lancers de javelot. Est-ce qu'on peut faire un lancer de javelot qui fait le tour du monde quand dans l'Astérix?
Prenez le truc dans l'autre sens. Vous voyez que je compare quand même pas mal à la mission Apollo 11.
Ouais.
Donc, vous voyez plutôt Essayez de vous rappeler, ou est-ce que vous savez ce que Apollo 11 a étudié, par exemple?
Non.
Alors, c'est les roches, voilà. Ils ont pas mal extrait de roches, et ils ont ramené l'équivalent de 320 kg de caillasse.
D'accord.
À étudier, voilà, de sol lunaire. Et rien de tout ça chez Monsieur Hergé, puisque pour l'époque, le programme scientifique qu'il met en place... pour ces héros n'est pas ridicule selon Roland Le Houx. Étudier les rayons cosmiques ou les flux qu'on reçoit de la Lune, on a su le faire quelques années après depuis des satellites. Donc c'était ça qu'en fait qu'ils exploraient plutôt dans la BD. D'ailleurs, de la même façon, le choix du professeur de poser la fusée dans le cirque Hipparque, je ne sais pas si vous revoyez l'alunissage, qui est un des plus grands cratères de la Lune, se tient. Si ce n'est que le sol est un peu trop accidenté et que donc c'est pour ça que c'est un site qui n'a pas été retenu. Mais ça avait été étudié à l'époque par la NASA.
D'accord, ok.
Voilà.
Du coup, ça ne se tient pas vraiment, du coup. Ça se tient et ça ne se tient pas.
Ah, c'est pas complètement aberrant, si tu veux.
Non, c'est sans poser la question.
Voilà, oui. c'est pas complètement déconnant. Ils se sont juste rendus compte que c'était moins, qu'il y avait une zone plus stable pas loin. Mais... tu en parlais tout à l'heure, ils ont un problème d'oxygène puisqu'ils ont embarqué du monde en trop, mon cher Angelo. Est-ce que vous pensez donc qu'il était possible de revenir sur Terre avec si peu d'oxygène? Ou autant de monde, plutôt?
J'aurais dû il prévoit de quoi alimenter bien plus de personnes.
T'es obligé, ouais. Je pense que de base, c'est un petit...
Non, mais il prévoit le voyage aller, le voyage retour.
Non, mais il prévoit aller retour, mais pour plus
manœuvre,
que...
Voilà, c'est tout, mais c'est une personne en plus, c'est peut-être trop, non?
Si jamais sur le retour tu rates un truc, t'es obligé de faire un tour de la Terre en plus ou un tour de la Lune. Non mais si,
tu
sers de l'attraction des planètes pour tes trajectoires. Il y a eu un incident comme ça sur Apollo 13, je crois.
Il fait ma chronique, il est fort. Vas-y.
Okay, continue. C'est approximatif. Sur Apollo 13, il y a eu un problème technique. Ils ont dû faire un tour en plus ou une trajectoire plus longue. Et il y avait assez d'oxygène, c'était prévu.
Et c'est la bonne réponse, en fait. D'ailleurs, on va prendre comme exemple Apollo 13, comme tu viens de le dire. Effectivement, Apollo 13, suite à un incident technique, avait perdu la moitié de son dioxygène dans un problème. Pardon. Ils étaient trois astronautes. Et ils ont dû se réfugier dans le LEM, donc c'est la partie avant de hyper sécurisée là qui est prévue pour deux personnes dans le LEM de la fusée. Et ils ont réussi à revenir comme ça sur Terre parce qu'en fait, le Houx explique que effectivement on surblinde ce genre de mission, on prévoit vraiment les possibilités et donc trois personnes dans le voyage aller-retour pour la Lune, trois personnes supplémentaires dans la fusée de Tintin. Pas de problème selon lui. Alors un truc qui m'avait beaucoup marqué, qui n'a rien à revoir, mais qui est assez amusant et qui en dit long sur l'imagination d'Hergé, c'était la nourriture lunaire prise par les Dupont et Dupont qui leur filaient les cheveux bleus et très très longs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Ah, oui. Ah, je me souviens de l'image. Ouais.
C'est
ouais.
Drôle ça. Sachez que cette histoire a pas connu à sa sortie des records de vente. En revanche, après la mission Apollo 11. Les ventes se sont envolées et à l'heure actuelle Tintin demeure depuis l'époque dans le top 3 avec 9 millions d'albums vendus dans le monde. Voilà messieurs.
Attends, est-ce que t'as le top 9 3 millions, c'est tous les Tintins, tu veux dire en général?
Non, 9 millions ce tome là.
D'accord, c'est ouf. Et dans le top 3 de quoi? Des ventes de BD ou des ventes de Tintin?
Des ventes de Tintin, des 3...
Ah oui, faut être clair aussi.
Ouais, c'est clair.
Ça me paraissait évident.
Bah non, tu dis que Tintin est dans le top 3 et on sait pas de quoi en fait. Quoi.
D'ailleurs, petite anecdote d'actualité que j'ai entendue à la radio. La première couverture du Lotus Bleu...
Combien déjà qu'elle a été vendue?
3 millions. C'est la pièce de BD la plus chère de l'histoire.
Je savais pas que vous étiez aussi tintinophile, vous m'avez bluffé les gars. Bien, voilà qui clôt pour le sujet tintinophile du soir. Merci.
Bah de rien. Merci.
C'est toi l'animateur, hein, faut renvoyer.
Ouais, t'animes pas nous. On dirait...
Moi, je gère pas le temps là. Là, c'est trop tard.
Bah, c'était un plaisir de se retrouver encore cette semaine, messieurs. On a pu parler de monstres, on a pu parler de Tintin, de la Lune. Avant de se quitter, messieurs, vous avez entendu des choses récemment que vous souhaiteriez conseiller à nos amis auditeurs?
Oui, Soul, Pixar, tous les Pixar ils sont bien, mais celui-là il est trop bien, voilà. Méga, méga rapide. Mais déjà, Vice Versa, c'était mon Pixar préféré avant Coco. Ensuite, Coco est sorti, c'était mon Pixar préféré. Et Soul, je l'ai tellement kiffé. Enfin,
vivement l'année prochaine. Alice.
Voilà. Bah, Pixar, ça met du temps. Mais non, mais il est vraiment, vraiment trop bien. Enfin,
moi, ce que j'ai halluciné, c'est, enfin, là où j'ai halluciné pour l'avoir vu du coup la semaine dernière aussi, c'est les textures. Les textures de
l'eau. Ouais, c'est trop bien. Juste, allez-y. Si vous ne l'avez pas vu, mais allez-y, vraiment.
Jérémy, Pépé.
Oui, petite reco, une chaîne YouTube, du coup, la chaîne, enfin plus spécialement une playlist dans la chaîne YouTube de Davy Mourier,
oui.
Que vous connaissez probablement, qui était en duo avec Monsieur Poulpe, auteur de La Petite Mort en BD. Et du coup, il y a une émission qui s'appelle Culture Z. On en est à bientôt une quarantaine d'épisodes, et du coup, à chaque épisode, c'est entre un quart d'heure et trois quarts d'heure, ça dépend. Et il va prendre des sujets de pop culture et il va nous montrer des objets. C'est surtout centré sur les objets, les figurines, mais aussi parfois juste parler d'un dessin animé. Là, par exemple, je l'ai sous les yeux, on va parler de Goldorak, de Tortue Ninja, oui, des Power Rangers. Oui. D'Alien, de Dragon Ball, enfin voilà, c'est vraiment, il y a de quoi faire là. Vous avez 40 épisodes à regarder, c'est vraiment une émission super cool.
Merci beaucoup, Mollusque.
Fini. On est déjà pas mal en retard, donc j'ai rien à suggérer. Allez, bim, on envoie.
Très bien, et eh bien moi je vais faire court, je vous conseille d'aller écouter le podcast Tranier raconte que j'ai découvert cette semaine. J'avais un peu de retard, c'est très 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 drôle. C'est Benjamin Tranier qui est déjà très drôle, okay. Tout court.
Ok,
voilà. Et c'était très sympa de vous retrouver.
Ah, mais va te faire foutre, hein.
Et Charlie,
t'as Sacha.
Non, mais de toute façon, il est à chier en animateur, clairement.
Non, mais il a fait exprès.
Non, il a pas fait
exprès. Évidemment. Ça fait deux fois que je le fais.
Vas-y, Charlie. Alors, vas-y, j'y vais.
Alors, en fait, moi, j'hésitais en plusieurs trucs, mais cette semaine, en une soirée, je me suis enchaîné la saison 2 de The Mandalorian. Mais oui. Et j'ai vraiment encore plus kiffé que la saison 1. Donc, c'est la série, série Star Wars, un spin-off.
Très bien, bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de se retrouver tous les cinq ce soir, encore une fois, même si ça aurait été plus sympa tous ensemble. Mais bon, bah voilà, les mesures et tout ça, et tout ça.
On fera pas du mètre centipède ce soir.
Non, on fera pas ça.
Et puis en plus, là, vous m'avez tenté toute la soirée, je vous ai bu boire des super bières et tout. Moi, je fais toujours Dry January, là, avec mon. Du coup, là, je bois du soda, là, et puis bah voilà. Du coup, c'était dur. Donc, je sais que j'en viens
chier, quoi. Pleurer, quoi.
Vivement février. Non, si tout va bien, j'espère fêter mon anniversaire et rompre le Dry January. J'aurais fait 3 semaines et ce sera déjà très bien.
Ouais,
messieurs,
Joker.
Au plaisir de se retrouver très très vite.
Yes, allez,
à bientôt. Et n'oubliez pas de nous liker sur Twitter, Facebook, de nous écouter.
Vous
si vous nous aimez bien, vous nous conseillez aux gens que vous aimez bien. Si vous nous aimez pas, vous nous conseillez aux gens que vous aimez pas.
Des poutous à tous.
Ciao, allez, ciao.
Gros bisous, ciao.
Salut, bonne nuit.
Ben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'était naze! Y'avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé aligner une mission. Faut que ça pop, pop, pop! Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir.
Le Nacho.
Je me souviens. Quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours.
Ça va trancher, chérie.
Mais non, il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Hasta la vista, baby.